Aujourd'hui, dans The Game Makers, on va parler de la création de musique de jeux vidéo. Quels sont les outils indispensables à la création musicale? Comment intégrer sa musique au sein d'un jeu vidéo? La musique sera-t-elle la clé de l'amour, de l'amitié? Oh, la musique! On en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue dans The Game Makers, le podcast qui remplit vos oreilles d'infos sur la création de jeux vidéo. Comme d'habitude, je suis Adrien et je répondrai à toutes vos questions sur le progressif Dark Synthwave post-avant-garde néo-glitchy DM Metal pendant les deux prochaines heures. Heureusement pour moi et un peu pour vous, je ne serai pas seul puisqu'il y a avec moi Jade qui est plus dans la mouvance électro-chill. Bonjour Jade.
Salut.
Avec nous, il y a aussi Antoine qui va nous apporter toute son expertise dans la chanson à texte. Bonjour Antoine.
Salut.
Notre tribu de Dana ne serait pas complète sans celui qui peut passer du rap occitan à Taylor Swift en faisant une escale dans le métal, Gugli. Bonjour Gugli.
Coucou.
Et pour vous apporter de vraies réponses de professionnels, nous recevons aujourd'hui Aurélien Montero, compositeur et sound designer freelance, entre autres. Bonjour Aurélien et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, bah merci de m'avoir invité, c'est très sympa.
Mais de rien. Aujourd'hui, dans cet épisode qui devrait être le quatrième épisode, on va parler de la musique dans le jeu vidéo et un petit peu aussi de sound design, donc ça touche un petit peu à la musique. Et avant de commencer, on va passer aux actus.
Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2019, voici quelques actus que nous avons relevées.
Alors, dans les actus, donc, au moment où on a enregistré, alors, le Z-Event est passé, donc il y a déjà un petit peu de temps, mais ça a fait beaucoup de bruit parce qu'ils ont relevé plus de 1 million d'euros pour Médecins Sans Frontières. Et surtout, ça va bientôt être le début de l'AGDQ 2019. Donc du 6 au 13 janvier. Donc malheureusement, ce podcast ne sera pas encore sorti, mais vous pourrez toujours revoir toutes les vidéos.
Et les prochains, du coup, ce sera la SGDQ cet été, où maintenant il y a de plus en plus de marathons caritatifs. Je sais que la chaîne de la SGDQ fait des mini-marathons d'un jour ou deux régulièrement sur des jeux un peu particuliers.
C'est ça, et c'est toujours intéressant de les voir parce qu'il y a souvent des vieux jeux qui reviennent assez régulièrement, mais il y a pas mal de nouveaux jeux en fait, qui apparaissent justement dans le speedrun. Donc c'est assez intéressant à voir. Ensuite, en deuxième actu, il y a la sortie de l'Epic Game Store, donc pour concurrencer Steam de Valve, par Epic Games, évidemment, du coup, qui a fait Fortnite ou l'Unreal Engine, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, contrairement à Steam, qui prélève presque 30% pour lui et le reste et aux développeurs, l'Epic Game Store ne va prendre que 12%. Le reste sera entièrement réservé pour les développeurs. Alors évidemment, il faut toujours mettre un bémol, parce que dans développeurs, on va aussi avoir les éditeurs qui vont prendre une certaine partie. Il va y avoir tous les acteurs du jeu vidéo qui vont prendre une partie. Mais c'est assez intéressant, surtout que pour essayer de lancer leur plateforme, ils proposent tous les mois un nouveau jeu gratuit. Donc, il y a eu Subnautica. En ce moment, c'est...
Je n'ai pas encore regardé le nouveau.
C'est le cube de viande, là.
Super Meat Boy.
Super Meat Boy. Donc, du coup, voilà. Il y a Super Meat Boy et Subnautica qui sont gratuits. Et tous les mois, il y en aura un nouveau. Dans les autres actus, alors cette fois plutôt au niveau mondial et politique, la Chine réouvre en fait avec parcimonie la sortie de certaines licences en Chine. Donc pour le moment, c'est encore assez. Enfin, il y en a pour le moment encore assez peu, mais comme c'était une certaine crainte en fait du marché du jeu vidéo de ne pas pouvoir éditer en Chine, là au moins on a l'impression que c'est une ouverture qui peut-être est signe de bonnes nouvelles. Est-ce que quelqu'un d'autre a relevé une autre actu?
Oui, il y a eu les Game Awards 2018 qui sont passés il y a quelques semaines pour nous, enfin quelques jours même. Et donc, on a eu l'occasion de voir que le jeu qui a gagné la Best Music et Best Sound Design est Red Dead Redemption 2. Ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Je crois qu'Aurélien a des choses à dire là-dessus.
Non, mais j'avais un peu suivi les Game Awards au moment où c'était sorti. Et j'avais remarqué que du coup, il y avait beaucoup de jeux sélectionnés dans la partie musique et sound design. Et du coup, j'avais fait une petite vidéo où j'avais donné un peu... En fait, j'avais fait une partie pronostic avant la remise des prix et une partie réaction où justement les deux s'enchaînaient l'un après l'autre avec du coup mes pronostics, la réalité et ma réaction. Et du coup, Red Dead Redemption qui a gagné le prix de la musique et du sound design, ce que je considère comme pas très légitime parce que ça donne un peu l'impression qu'on a sacrifié le prix du sound design et de la musique sur le sanctuaire de Red Dead Redemption parce qu'il n'a pas eu le GOTY. Du coup, ça me rend un petit peu triste, sachant qu'il y avait quand même Céleste dans la partie musique et que dans la partie sound design, il y avait God of War qui avait un sound design aux petits oignons.
Oui.
Et du coup, ça me fait un peu suer.
Boy.
Mais si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo sur ma chaîne.
On peut noter quand même qu'il y a eu quelques trucs pour des jeux indés. Donc il y a entre autres Dead Cells qui a gagné le prix de la meilleure action game, ce qui est cool, parce qu'on aime bien Dead Cells.
Et c'était pas gagné.
Comme tous les mois, Motion Twin, n'hésitez pas, hein, la porte est ouverte.
Il y a eu quoi ? Il y a eu Into the Breach qui a gagné un prix, il y a Celeste qui a gagné un prix, même si c'est pas les plus gros.
Into the Breach aurait bien mérité au moins une nomination dans la partie musique, selon mon humble avis.
Et une dernière petite actu, parce qu'on a parlé un petit peu dans notre premier épisode avec Lola de pâte graphique, de direction artistique, et il y a un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle Gris. Vous avez peut-être entendu parler, il y a pas mal d'articles qui en parlent, et il est super joli, il a une pâte complètement incroyable.
Et, il n'est pas gris, contrairement.
Il n'est pas gris, effectivement, et ça passe également par la musique, même si le premier truc qu'on voit, c'est forcément la qualité de l'animation et des dessins. La musique va très bien avec. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer, mais j'ai regardé quelques vidéos dessus et c'est vraiment cool. Et de ce que j'ai vu, des gens qui ont joué, on trouve le sound design et la musique plutôt cool aussi.
D'accord.
Je vois, on profite des actus pour faire des rocos. Très bien. Bah, je roco The Return of the Obra Dinn. Voilà, vous irez voir.
Bon, pour passer au dossier, on va commencer ce dossier par l'histoire en trois dates avec Gugli.
Alors, l'histoire en trois dates, comme d'habitude, on remonte à la préhistoire du jeu vidéo, et là, on remonte même avant, puisque un petit topo sur quelle était la situation du son, de la production de son à l'ère du début des bornes d'arcade et tout. Et à l'époque, les seuls moyens de jouer du son, c'était de l'analogique. Donc, soit des bandes magnétiques, ou du vinyle, ou ainsi de suite. Et pas du tout de musique électronique. Et les premiers jeux vidéo qui ont commencé à se dire « Bon, bah nous, on a un processeur qui fait des sorties électriques, est-ce qu'on peut pas brancher un haut-parleur derrière et faire des petits effets sons ?» Alors, les premières traces que j'ai vues, c'est le programme qui dit « Bon, bah j'envoie un 1, j'envoie un 0, je compte sur la fréquence du processeur et ça fait un son. » Et donc, c'est vraiment très, très bidouillé et ça faisait du son assez dégueulasse. Les premiers qui ont commencé à... La première trace que j'ai d'une utilisation où c'était vraiment pour émuler de la musique et plus juste des effets sonores comme des explosions ou des trucs comme ça, c'est en 75, le jeu qui s'appelle Gunfight ou Western Gun en fonction de la localisation, et qui a fait une petite musique de mort, une petite marche funèbre à la mort d'un des personnages, et c'était la première fois où les mecs ont réussi à faire des notes, où on reconnaissait une musique, et c'était pas juste un effet explosion ou petit bruit de tir ou de quelque chose comme ça. Donc voilà, 75, la première proto-musique électronique faite par un chipset, un processeur, donc la première chiptune, si on peut prendre le mot littéral.
Non, mais c'est ça.
Deuxième date, donc 5 ans après 1980, la première bande-son continue dans un jeu vidéo avec le jeu Rally X de Namco. Donc, musique en continu dans un jeu vidéo, c'est un beau progrès. Et ensuite, j'ai choisi comme troisième date une grosse avancée pour toute une génération de jeux qui maintenant ne sert plus beaucoup, mais c'est en 83 le MIDI, qui a permis en particulier, avec la marque Roland qui a beaucoup poussé ce protocole, on va dire, cet ensemble de normes, qui permettait donc d'avoir en très peu de place, puisque le MIDI, ça consiste à en gros stocker une partition, un peu un format numérique, et ensuite le matériel va s'occuper d'en faire une jolie musique. Mais ça permettait dans des jeux sur disquette d'avoir des super musiques, et ça fait un bond en qualité sur tout ce qui est son à cette époque-là, enfin tout ce qui est musique à cette cette époque-là.
Sachant qu'en plus il y a eu une grosse progression, parce que en gros, comme on l'a vu au tout début, en fait le tout début où on a commencé à utiliser des sons, c'était surtout pour permettre d'avoir des feedbacks au niveau du joueur, pour qu'il puisse avoir plus d'immersion en fait. Mais vu que ça prenait beaucoup de place et qu'on n'avait pas non plus tant de canaux sons, parce que c'était pas non plus la priorité c'était d'avoir un truc lisible graphiquement et que les gens puissent comprendre avec pas grand chose. Du coup, après, on a commencé à mettre des petites musiques, par exemple Pac-Man, tu regardes, il y a que du sound design et il y a des musiques en début et en fin, pour pas que ça bouffe toute la partie sonore. Et après, on a commencé à rajouter des musiques pendant le jeu, c'était encore des boucles très courtes parce qu'il faut faire des économies, quoi. Parce que bon, il y en avait quand même des bandes son où, par exemple, t'avais deux canaux et si t'avais deux instruments, bah t'avais une des deux pistes qui se faisait manger par le sound design, parce que tu pouvais pas jouer plus de deux pistes. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à avoir de plus en plus de pistes. Avec le NES, on en avait quatre. Et après, ça a continué. Voilà, et c'est déjà wouh, c'était le feu. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, on a commencé à multiplier les trucs, on a commencé à avoir des bandes son en continu, ce qui a été une grosse révolution. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Roland a beaucoup poussé pas mal de trucs. Déjà sur la NES, enfin sur la Super NES, ce qui était pas mal, c'est qu'on pouvait programmer... En fait, on programmait note par note en disant « Ok, je veux que ce soit X octave, que ce soit telle note, que ça joue tant de temps. » Et tu programmais tout ça à la main. C'était extrêmement long, extrêmement...
Ouais, avec un tracker.
Et puis surtout qu'au début, c'était pas des compositeurs. C'est-à-dire que c'était des mecs programmeurs qui faisait, il y avait des mecs qui disaient bah fais de la musique s'il te plaît parce qu'on n'a pas de musique. Et du coup je vais essayer de faire un truc et du coup c'était un peu aléatoire. Puis le métier de compositeur ça arrivait vachement tard, genre dans les années 80-90 on commence à avoir des compositeurs, mais voilà, genre je pense que tu demandais à Nobuo Uematsu à l'époque est-ce que tu considères être un compositeur, et t'es en mode bon j'en sais rien. Et Roland d'ailleurs qui a fait des instruments qui ont été vachement été utilisés à l'époque de la PlayStation 1. Ils ont fait un truc qui s'appelle je sais plus, mais c'est un truc U88, un truc comme ça, et Nobuo Uematsu s'en est servi sur le Final Fantasy 7, 8 et 9 pour faire tous les trucs orchestraux et tout ça, et ça passait vachement bien.
Clairement Roland dans la musique électronique c'est un nom qui revient souvent,
oui.
Et l'invention du MIDI quand même une date un peu charnière,
ah bah, ça change les choses. Ah bah ça aide, hein.
C'est clair. Quelqu'un a quelque chose à dire sur ces dates en plus de ces commentaires ?
Moi, ce que je vois, c'est que c'est très jeune, en fait, la musique de jeux vidéo. Enfin, le jeu vidéo est encore un médium jeune. Mais la musique, enfin, le fait que le MIDI date de 83, maintenant, il y en a partout, mais c'est quelque chose qui est arrivé très tard. Et j'ai l'impression que ça en fait un médium pas encore mature. Et peut-être qu'on est encore un petit peu à l'adolescence de la musique de jeux vidéo, pour moi.
Complètement. En fait, là, on est dans une réflexion assez intéressante parce que on a commencé à vraiment avoir des musiques enregistrées en orchestre vers les années 90, quand on a commencé à avoir le support CD, parce que du coup, ça permettait d'avoir beaucoup plus d'espace. Bon, faut pas déconner.
J'aurais pu le remettre en date, mais comme le CD, ça fait déjà trois fois qu'il apparaît dans des épisodes précédents.
Ça a quand même pas mal changé le jeu vidéo.
Ça a changé beaucoup de choses, parce que quand tu vois Grandia qui a pu avoir un orchestre enregistré, t'es en mode... Ouais, ça a quand même pas la même gueule que quand tu fais ça en chiptunes, quoi.
Ouais.
Et le truc, c'est que... Et encore... Faut dire un truc, c'est que même encore maintenant, l'espace accordé à la musique et au sound design sur un CD, c'est très petit, hein, c'est de l'ordre de 10% du CD.
Il y a eu un pic de ça, on en parlera, mais il y a eu toute une période où les jeux prenaient genre moins d'une centaine de mégas et tout le reste était utilisé par la musique sur le CD au format musique. Je sais pas si vous vous souvenez de cette période, je pense que c'était le pic en genre on a les CD, c'est plein de place, mais on va bourrer de musique.
L'époque où tu pouvais tenter de mettre tes CD de PlayStation dans ta chaîne et tu voyais lesquels passaient, lesquels passaient pas.
Il y a la piste 1 qui passait pas. Enfin, pour les CD PC, la piste 1 passait pas, c'était les données et après ça passait.
Non, mais oui, il y a eu un gros pic, puis on avait commencé à avoir du coup des musiques enregistrées. Puis après, on a eu la musique interactive qui a commencé à arriver là depuis 7-8 ans, un truc comme ça. Et c'est encore que le début. Là, on est au balbutiement de la musique interactive, qui est une évolution de la musique logique au niveau du jeu vidéo. Et on va continuer à en avoir parce que ça grandit. Genre, par rapport au cinéma, le jeu vidéo vient de naître, quoi.
Oui.
Voilà, le dossier est terminé. On peut conclure ce podcast.
Merci d'avoir écouté The Game Maker. Donc juste avant d'attaquer le cœur du dossier, on va laisser Aurélien se présenter un peu plus.
Bon, moi je m'appelle Aurélien Montero, je suis compositeur et sound designer depuis quelques années. Je travaille notamment sur Propaganda, dont Lola était l'invité il y a quelques mois, voilà. Et j'ai également aussi une chaîne YouTube, comme Lola, parce que je suis pas très original, où je parle de musique, de sound design, où je vulgarise le sujet. Je donne également des cours dans des écoles, des conférences. J'ai pas beaucoup de vie sociale. Non, mais je fais plein de petits trucs comme ça. J'essaye de vulgariser un peu le sound design auprès des gens, de manière générale.
D'où ta présence ici aujourd'hui.
Voilà.
Très bien. Donc Adrien, on va te laisser pour ton heure et demie de parole sur le dossier sound design et musique.
Voilà, si vous demandiez pourquoi c'est Antoine qui fait les transitions, etc., c'est parce que je vais déjà beaucoup parler.
Donc, comme d'habitude, on n'hésite pas...
N'hésitez pas à intervenir à tout moment... C'est ouvert. Pour commencer, un espèce de petit disclaimer, à part Aurélien, autour de cette table, c'est pas notre métier de faire de la musique, clairement. Donc on va essayer d'apporter un maximum d'éclaircissement, mais c'est pas notre travail de tous les jours, contrairement par exemple aux jeux mobiles ou la génération procédurale, où c'est des choses qu'on fait dans notre métier. Là, ce n'est pas le cas. Donc soyez...
Par contre, tu peux quand même dire que c'est une de tes grandes passions et que
tu fais
beaucoup de trucs sur ton temps.
Je fais de la musique en indépendant depuis trois ans. Ouh, attention, ça ne rigole pas. Mais effectivement, ce n'est pas mon métier, je n'aurai pas toutes les arcanes de la création musicale, et c'est aussi pour ça qu'Aurélien est là aujourd'hui.
Ne t'inquiète pas, je viendrai te saupoudrer en disant « Ah, t'as dit une erreur là !»
Très bien, merci beaucoup. concrètement, à quoi ça sert la musique dans le jeu vidéo? Ça sert tout simplement à créer une ambiance, couplée avec tous les visuels du jeu, ça permet de créer l'ambiance, poser l'univers, accompagner le joueur dans ses émotions, dans ce qui se passe, dans l'action, dans le relâchement, etc. Donc c'est ce qui va vraiment créer l'univers dans un jeu vidéo. Donc, au début, il n'y avait pas trop de musique, comme on a parlé, et ça, c'était les balbutiements du jeu vidéo, on s'est rendu compte de plus en plus que la musique était quand même une part importante, voire primordiale, du transfert d'émotions dans un jeu vidéo. Certains jeux utilisent donc la musique pour ces émotions, mais certains autres jeux l'utilisent aussi dans le gameplay même, dans le game design. Donc bien évidemment, les jeux de rythme, comme par exemple le Guitar Hero, c'est dans le nom, on va jouer de la guitare, donc la musique est au cœur du jeu, mais on va avoir des jeux un petit peu plus subtils dans leur utilisation de la musique, comme Crypt of the Necrodancer, qui va être un dungeon crawler, où il va falloir avancer au rythme de la musique pour que ça fonctionne, en fait.
On peut même citer en plus tous les jeux qui utilisent un changement de musique, par exemple quand on passe en phase de combat, où c'est non seulement pour l'ambiance, mais en fait, ça devient souvent une partie du gameplay où tu sais, ah là là, je vais me faire attaquer parce que la musique a changé, alors que c'est pas juste pour mettre l'ambiance, ça sert aussi un peu le gameplay.
Ouais, en fait, le truc, c'est que la musique, elle a eu pas mal d'utilités différentes. Effectivement, elle apporte déjà toute une ambiance, elle vient apporter une deuxième information au niveau du visuel, au niveau de l'univers. Par exemple, si t'es dans une ville un peu technologique, que t'es des musiques un peu, enfin des instruments un peu synthétiques, ça semble cohérent. Que tu aies des musiques beaucoup plus rythmées dans les phases de combat, etc. Mais du coup, ça aide aussi le gameplay parce que ça permet d'apporter des informations de situation. Par exemple, si tu es en course-poursuite, tu vas avoir une musique stressante. Si tu es dans une situation un peu plus posée, tu vas avoir une musique qui correspond à ça. Et du coup, ça te permet de te coller à tout ça. Et effectivement, il y a eu pas mal d'avancées avec des trucs comme les jeux de rythme qui ont permis de se poser des questions sur la musique et comment on l'exploite. Parce que quand tu dois faire une musique... Un jeu comme Guitar Hero où tu dois être calé au rythme de la musique, au tempo et que tu dois appuyer à des moments bien précis, ça te demande de te dire, ok, comment je fais pour quantifier en termes de programmation le nombre, les mesures, le rythme, que tout soit synchronisé, que ça ne se décale pas sur le temps parce que sinon c'est terrible et ça permet de faire évoluer un peu la musique interactive grâce à ces petits trucs-là, quoi.
Et moi, je voulais revenir sur ce que disait Adrien au début, donc ça permet pas mal de poser l'ambiance d'un jeu, mais même à l'intérieur d'un jeu... Il y a des choses qui sont super reconnaissables généralement, par exemple tous les niveaux aquatiques dans, je sais pas, on prend un Mario, un Donkey Kong, tu mets même quelqu'un qui a jamais joué à un de ces jeux, s'il a fait un peu d'autres, on met une musique, on met plusieurs musiques, on met tiens, il va faire tiens, ça c'est le niveau dans l'eau, c'est sûr quoi. Il y a toujours les mêmes gimmicks qui reviennent, le même style un peu d'instrument.
C'est très codifié, c'est comme tu joues à des RPG japonais, tu les musiques de combat, tu peux trouver beaucoup d'éléments qui reviennent et qui se rajoutent. Parce qu'il y a des codes, des trucs, et quand tu vas pas réinventer la roue à chaque fois, quoi.
Mais les codes sont là pour être cassés.
Oui, mais pas tous.
Du coup, ça me permet d'enchaîner justement sur la diversité des styles. Donc, effectivement, un RPG japonais va pas avoir le même style qu'un petit jeu indé cyberpunk. Donc, faire de la musique, c'est pas faire une musique, c'est faire des multitudes de musiques. Et je pense que la force des grands compositeurs, c'est de pouvoir s'adapter à ces différents styles musicaux. Donc ici, on ne va pas vous apprendre les arcanes de chaque style musical, ça va passer plutôt par l'expérience et par l'écoute de ces styles musicaux. Mais voilà, selon le jeu que vous allez faire, il va falloir penser à quelle musique vous voulez apporter, en fait.
Tu parlais de style de musique et de type de musique en fonction des jeux. Moi, je pensais, déjà, j'y connais pas grand-chose en musique, donc en termes de création. Et si on se dit qu'on fait un podcast pour les gens qui veulent créer du jeu vidéo, est-ce qu'il y a des types de musique qui sont peut-être plus faciles à appréhender pour des gens qui n'ont pas fait avant, dont c'est pas le métier, qui veulent faire un truc tout seul?
En fait, ça dépend du background de chacun, parce que si t'as fait de la musique, par exemple, si t'as fait du rock, t'auras peut-être plus de facilité à faire des musiques dans ce style-là, ou des trucs à la guitare. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de style vraiment plus facile. Après, je pense que par exemple, l'orchestral et le jazz, c'est pas forcément le plus facile d'aborder de but en blanc comme ça. Mais je pense que avec toutes les ressources que t'as sur le net, avec les tutos YouTube, les trucs comme ça, t'as quand même moyen de quand même bien te renseigner et de bien apprendre. Donc pour moi, il suffit d'aller creuser un peu sur YouTube. T'as déjà beaucoup de clés en main à trouver. Et après, avec les bons sites, les trucs comme ça, t'as des formations sur des trucs genre Udemy ou t'as des formations. Il y a un mec que je suis... Alors, je sais plus comment il s'appelle, parce qu'il y a tellement de gens sur Udemy. Mais il y avait un mec qui avait fait une formation pour composer de la musique de A à Z. Et il y avait une autre meuf qui avait fait vraiment un truc pour... Vous n'avez jamais composé de musique, voilà une formation. Vous pouvez apprendre à faire de la musique de A à Z pour du jeu vidéo avec plein de trucs, plein de codes. Et ça peut être une bonne solution pour ceux qui voudraient s'y mettre. En plus, il y a un moment, elle était à 20€ la formation, donc c'était vraiment pas cher.
Il y a souvent des promos.
Ouais, c'est ça. En fait, Udemy, il faut attendre les moments. Il y a des périodes, genre faire le Black Friday, des trucs comme ça, où t'as des grosses promos. Et il y a une formation comme ça où vous pourrez apprendre, si ça vous intéresse, à creuser là-dedans, quoi.
Un point important, si tu ne sais pas du tout faire de la musique, tu peux aussi ne pas faire de la musique et trouver de la musique libre de droit sur Internet. Ça peut être une piste éventuellement, si vous n'avez pas le temps, pas l'envie, ça ne vous passionne pas, de se dire, je vais trouver des gens qui font de la musique. Je pense par exemple à Jamendo qui propose de la musique libre de droit, mais il y a d'autres sites qui le font. Et je dis libre de droit parce que ne volez pas la musique des gens, ce sont des créateurs et ils passent beaucoup de temps à faire leur création. C'est une œuvre artistique, les gens qui les créent ont des droits dessus.
Puis il y a même des compositeurs qui font des packs libres de droit, enfin, ou pas très cher, genre par exemple tu payes 2$ et t'as 20 musiques qui fonctionnent, qui bouclent, etc. Donc il y a des options, parce que je sais que pas mal de compositeurs font ça, c'est que composer de la musique pour un jeu, ça coûte de l'argent, mais parfois les petits développeurs indés, ils n'ont pas forcément les moyens de mettre autant d'argent dans de la musique, ce qui est compréhensible, parce que quand tu démarres, c'est pas super simple. Et des fois, il y a des compositeurs qui proposent des packs, genre, voilà, toi tu fais RPG, voilà un pack, t'as 20 musiques de RPG, ça coûte 2-5$, et tu peux les utiliser pour ton jeu, faut juste me créditer, et puis voilà quoi. Et ça permet d'avoir de la musique un peu qualitative, qui sera pas originale par rapport au jeu, mais au moins c'est mieux que de devoir pirater des musiques, et de pas avoir les droits, et peut-être se retrouver dans la merde au niveau de la loi un peu plus tard quoi.
Et ça peut être aussi intéressant, par exemple, si tu fais une game jam, tu peux dire, ok, j'ai jamais fait ce style-là, je peux peut-être trouver une musique libre de droit assez rapidement et tout de suite, jeu aura tout de suite une autre allure que débrouille pas ou ce genre de truc.
Oui, puis de toute façon, on dit souvent que dans le cinéma, la musique et même l'ambiance sonore prend à peu près 50% d'expérience. Dans le jeu vidéo, on ne va pas lui accorder 50%, mais ça prend quand même une bonne part d'expérience parce qu'entre un jeu qui n'a pas de son du tout et un jeu qui a un son mixé avec de la musique, du sound design, ça prend vachement plus d'allure, quoi. Et ça rajoute vachement plus d'immersion.
Du coup, si vous ne voulez pas de la musique gratuite et que vous voulez vous mettre à faire de la musique, on va attaquer vraiment le cœur du truc. Par quoi on commence ? On va commencer par les outils et le matériel nécessaire pour faire de la musique. Donc, la première étape, ça va être ce qu'on appelle le Digital Audio Workstation. Donc, moi, j'appelle ça la DAW. Je ne sais pas si ça se prononce autrement, la DAW.
DAW, on dit le DAW.
Donc, il y en a un paquet. Il n'y a pas de grand gagnant là-dessus. C'est pas comme Photoshop pour le graphisme qui cannibalise tout le marché. Là, il y a plusieurs développeurs qui se tirent la bourre. Je vais commencer par un qui n'est pas vraiment un DAW, mais qui est plutôt juste un logiciel pour enregistrer du son, qui est très bien pour les débutants qui n'y connaissent rien. Ça va être Audacity. Ça marche partout, Mac, Linux, Windows, beaucoup de podcasts enregistrés sur Audacity, même nous on enregistrait sur Audacity à une époque, c'est très bien si vous n'y connaissez rien. À une époque, c'était il y a 4
putain
mois,
temps.
Il y a 3 mois, voilà. Si vous n'y connaissez rien, Audacity ça peut être un bon moyen de se mettre un petit peu dedans, de comprendre ne serait-ce que comment on enregistre un micro sur un ordinateur, les entrées son, le volume, etc., des choses comme ça.
Puis on peut faire pas mal de trucs avec Audacity, il y a quand même pas mal d'outils de base qui sont fournis, il y a toute une mécanique, ça permet de comprendre qu'est-ce qu'un spectre sonore. Voilà, il y a quand même pas mal de tutos sur YouTube, donc ça peut être intéressant pour une première entrée dans le milieu du son, même si c'est un premier pas, quoi.
Ouais, moi, de mon point de vue de noob, j'ai déjà utilisé pour faire un peu de voix pour un site. Et quand tu connais rien, en fait, tu regardes un peu les effets, c'est pas très compliqué de juste enlever les trucs dégueux ou enlever du bruit dans des musiques en live parce que t'as que ça... et que tu veux l'utiliser dans quelque chose, c'est assez simple tripatouiller un peu le truc, faire des fondus, mettre un ou deux effets, changer un tout petit peu le pitch, etc. Donc je trouve que c'est assez accessible quand on n'y connaît rien comme moi.
C'est ça. Après, si vous voulez aller plus loin et faire vraiment de la musique, je vous conseille plutôt d'autres outils comme... je vais tous les citer d'un coup parce qu'ils ne sont pas tout à fait équivalents, mais vous allez retrouver grosso modo les mêmes outils. Donc il y a Reaper... qui est gratuit, donc c'est intéressant. Oui. GarageBand, qui est fourni avec tous les Mac actuellement. Cubase, Pro Tools, Logic, Ableton Live, Fruity Loops, et il y en a encore plein d'autres. Comment choisir ? Moi, je vais vous dire ma technique, c'est au moment où vous allez acheter du matériel, il y en a un qui sera fourni avec, et c'est peut-être pas une mauvaise idée de commencer par celui-là, voilà, tout simplement. L'autre conseil qu'on m'a déjà donné une fois dans ma vie, c'est choisis celui que tes copains savent utiliser, comme ça ils pourront t'aider, et mine de rien c'est assez intéressant. Personnellement je suis sur Ableton Live, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Pro Tools, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Reaper aussi, Cubase je crois que c'est très utilisé aussi.
En fait, ce qui est assez intéressant avec les différents softs, c'est que c'est vachement aussi influencé par le milieu dans lequel tu vas bosser, parce que par exemple Reaper, je sais que ceux qui bossent sur Ankama utilisent tous Reaper. C'est-à-dire que c'est parce que de base c'est gratuit et que la licence ne coûte pas très cher. C'est la licence la moins chère pour un DAW de tous en fait. Donc par exemple, tu as ça. Pour le dessin animé, ça va plutôt être Pro Tools parce que c'est un, on va dire, un reliquat de l'époque d'il y a 10 ans où tout le monde utilisait Pro Tools.
En radio aussi, c'est très utilisé Pro Tools.
Ouais, en radio, dans l'audiovisuel, tout ça. Ableton a fait son trou depuis quasiment 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il est là et tout le monde l'apprécie beaucoup parce que, un, ils font pas des mises à jour tous les ans, ils te font une nouvelle version qui apporte rien. Quand ils te font une vraie update, c'est pas comme Pro Tools où t'as eu le 11, le 10, 11, 12, t'as pas vu la différence et ça t'a coûté 300 balles. et en plus, quand ils font des mises à jour, les mises à jour, elles sont costauds, quoi. Ça apporte vraiment des trucs assez cool. Fruity Loops, c'est plutôt pour la musique électro, qu'on l'utilise pas mal.
Ça existe depuis super longtemps, ça, non ?
Ouais, ça a été...
Je me rappelle ça de l'époque lycée où j'avais des potes qui faisaient des trucs sur Fruity Loops.
Bah, disons que ça a tout un écosystème qui marchait bien, il y a eu toute une communauté, ça coûtait pas très cher, enfin, t'avais quand même moyen de l'avoir, et du coup, ça s'est créé une sorte de communauté assez cool. Cubase aussi, c'est vachement utilisé pour les compositeurs un peu plus classiques, donc ceux qui font de l'orchestral, par exemple, ils utilisent vachement, ou ceux qui font que de l'enregistrement. Mais en général, moi, je recommande Reaper. Par exemple, quand je donne des cours, je recommande d'utiliser Reaper parce que c'est gratuit. Parce qu'en fait, t'as une version d'essai illimitée, parce qu'en gros, t'as 30 jours sans pop-up. Et quand t'as passé les 30 jours, en gros, il te met une petite pop-up. Vous pouvez l'acheter, t'attends 5 secondes et il fait continuer en version d'évaluation. Et tu peux rouler comme ça, tu peux exporter tous tes projets, tu peux. Et en plus, il est ultra personnalisable, il est un peu open source, donc du coup, tu peux modifier ton interface, tu peux rajouter plein de modules. Enfin, la communauté Reaper, elle est très très énervée et elle produit beaucoup de contenu, donc c'est assez cool. Et en général, si t'as un problème, t'as un tuto au Reaper qui t'explique comment résoudre ton problème. Donc, plus, il te fournit tous les outils de base, donc c'est pas mal.
Donc voilà, premier pas, essayez Reaper. Et après, le jour où vous achèterez du matériel ou le jour où vous voudrez vous lancer dans autre chose, peut-être qu'un autre dos fera l'affaire. Je vais enchaîner immédiatement sur le matériel en parlant tout de suite, on a parlé tout à fait, un petit peu tout à l'heure, du MIDI. Donc qu'est-ce que c'est le MIDI ? Ça va être en fait une sorte de protocole logiciel qui va dire, en gros, vous allez dire là j'ai envie de jouer un Do, là j'ai envie de jouer un La, là j'ai envie de jouer un Fa. Et après vous allez avoir des instruments MIDI que vous allez plugger dessus et qui vont jouer les notes que vous avez dites. Donc c'est une manière, entre guillemets, pas programmatique, mais après, enfin, c'est plus visuel maintenant, de jouer de la musique avec des instruments qui n'existent pas, des instruments qui sont virtuels. Et c'est utilisé partout, hein, on va pas se mentir, le MIDI c'est extrêmement utilisé. Et du coup, il n'y a pas besoin d'instruments de musique, il n'y a pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit, tout est sur votre ordinateur en fait. Donc pour faire du MIDI, souvent on va avoir une interface MIDI pour jouer un petit peu. Donc l'interface MIDI la plus simple et je pense la plus répandue, ça va être le clavier MIDI. Donc c'est comme un clavier de piano, mais qui va produire des inputs MIDI, qui va dire bah là c'est un Do, et l'ordinateur va recevoir au bout, bah là j'ai un Do et je vais jouer un Do sur un piano, sur une flûte, sur une harpe, sur l'instrument que vous voulez, sur un instrument qui n'existe pas, un instrument extraterrestre, tout ce que vous voulez. Et du coup, ça va être un petit peu la première interface la plus simple pour faire du MIDI. Il y a d'autres choses comme des pads ou des choses comme ça, enfin, choses qui sont un peu plus poussées, qui ont des interfaces tactiles différentes. Après, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez faire, quoi. Si vous voulez pas forcément faire du MIDI ou si vous voulez mixer les deux, hein, tout est possible. Au bout d'un moment, il va falloir une carte d'acquisition. Donc, en gros, pour pouvoir brancher un micro sur votre ordinateur, brancher un micro ou un instrument, une guitare ou quoi que ce soit, passer du son dans la vraie vie au son dans la vie de votre ordinateur. Ça, des cartes d'acquisition, ça coûte pas très très cher. Je pense que pour moins de 100 euros, on peut avoir des cartes d'acquisition assez facilement. Et souvent, du coup, elles sont livrées avec un petit logiciel qui va vous permettre de l'utiliser correctement. Et vous allez pouvoir vous enregistrer vous-même votre voix, vos instruments, etc. sur votre ordinateur. Ça implique que vous ayez un micro pour enregistrer votre voix, mine de rien. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des micros, de qu'est-ce qu'il faut prendre, pas prendre. Je pense qu'on pourrait faire un podcast complet juste sur les micros. Renseignez-vous sur Internet, prenez un micro, pas forcément trop cher pour commencer, mais prenez pas les premiers bas de gamme non plus. Parce que quoi qu'il arrive, votre son ne sera jamais de meilleure qualité que l'acquisition que vous ferez au début. Donc si vous faites une mauvaise acquisition, votre son sera forcément pourri à la fin. Et enfin, au niveau matériel, si vous avez des instruments de musique, ça compte dans le matériel, mine de rien. Donc si ça fait 15 ans que vous faites de la guitare comme moi, vous pouvez prendre votre guitare, vous enregistrer et faire votre musique de jeu vidéo avec votre guitare. C'est pas forcément que des blip-blop et du MIDI, on peut utiliser des vrais instruments. Et si vous avez des potes qui ont un orchestre symphonique, faites-vous plaisir, profitez-en.
Enregistrez avec votre micro qu'on vous offre avec les cartes son, et puis voilà quoi.
Voilà, c'est ça. Donc voilà un petit peu les bases du matériel. Après, le monde de la musique est inondé, surtout de la musique électrique, est inondé de nouveaux matériels qui font toujours plus de choses, qu'on peut brancher entre eux, qu'on peut racker. Enfin, il y a énormément de choses. Là, c'est une porte ouverte sur un nouveau monde, quoi.
Bah d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un petit produit qui est en train d'être produit par une petite start-up, où en gros, le principe, c'est que tu as une sorte de micro, et en fait, ça va venir activer en fait certains sons, et par exemple avec juste ta voix tu peux faire une batterie en fait. Par exemple en tapant dans certaines fréquences, en gros il va faire ça, c'est le kick, ça, donc ça c'est la grosse caisse, la caisse claire, etc. Et du coup bientôt on va pouvoir commencer à faire de la musique juste avec sa voix. Et donc ça veut dire que typiquement quand t'as une idée en tête, tu fais ah j'imagine bien un truc comme ça en termes de batterie, bah tu vas pouvoir le faire à la bouche et pam, ça va te le ressortir dans ton software et t'auras un truc qui marchera. Et typiquement ça peut rejoindre tous ces trucs là où justement ça envoie du MIDI via ton micro et ta carte son, et du coup tu peux le faire passer dans ton logiciel qu'on t'a offert avec tes cartes son.
La boucle est bouclée. Voilà, donc là c'est un autre monde. Préparez votre portefeuille.
Ça coûte très cher l'audio.
Voilà, ça, l'audio coûte très très cher.
C'est un gouffre.
Un point intéressant, donc ça va être presque plus pour le sound design, mais ça peut être intéressant pour la musique, c'est des banques de sons gratuites, libres de droit. Je pense à freesound.org, sur lequel vous allez pouvoir tout trouver. Vous avez besoin de la pluie qui tombe pour faire l'intro de votre musique. Vous allez là-dessus, vous tapez rain, et vous allez trouver 1 minute 30 de sons de pluie enregistrés par quelqu'un qui a enregistré la pluie. Voilà. Il faut tout pour faire un monde. Et généralement, les sons sont d'assez bonne qualité. On trouve un petit peu tout, et ça permet voilà, d'avoir assez facilement des sons à portée de main.
Et petite remarque, faites attention aussi quand même quand vous utilisez freesound.org, parce qu'il y a des notions de droit qui sont sur les côtés où vous pouvez trier en fonction de trucs. Par exemple, il y en a qui ont enregistré des sons et qui mettent dans leur droit de ne pas le modifier ou de le laisser tel quel. Du coup, on peut sélectionner sur le côté à droite quand on fait des recherches, par exemple si on veut du Creative Commons 0, etc. Donc ça peut être pas mal de quand même regarder les droits, s'il faut créditer, etc. Parce que si c'est le cas, faites-le. Et je rajouterai une petite ressource qui est pas mal pour ceux qui cherchent des banques sons assez cool. Il y a GDC Audio, un truc comme ça. C'est des banques qui sortent tous les ans à la GDC. Et en gros, tu as 20-30 gigas de banques sons tous les ans qui sortent. Et du coup, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se lancer d'avoir des bases. Et du coup, il y en a, je crois, de 2018, 2017 et 2016, je crois.
Très bien. L'étape d'après dans votre DAO, ça va être de rajouter ce qu'on appelle des VST. Alors là, c'est pareil, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Donc les VST, Virtual Studio Technology, ça va être des modules virtuels qui vont rajouter des effets. Donc il y a des VST pour tout. On peut avoir un VST pour avoir un accordeur, un VST pour gérer le gauche-droite. On peut avoir un VST qui fait des effets type extraterrestre. On peut avoir absolument tout et n'importe quoi. Et ce sont des logiciels donc téléchargeables, gratuits ou payants, selon les VST. Et ça peut monter très très vite, très très haut, et qui vont s'intégrer dans votre DAO de manière assez simple. Il y a plusieurs types de VST, je vais passer très rapidement, mais en gros il y a les VST, donc c'est un petit peu la technologie qui va un peu partout. On va avoir les Audio Units, donc AU qui va être uniquement pour Mac OS X, et vous allez voir l'AX et le RTAS qui sont un peu spécifiques à Pro Tools. Donc selon le DAO que vous avez, vous renseignez. Souvent taper dans les VST c'est le bon plan, parce que c'est à peu près tout le monde est compatible VST quoi. Donc je parlais d'effets sur les VST, on va rentrer un petit peu dans le détail de certains effets, là pareil il y en a des tonnes, mais au moins les effets de base sur comment traiter du son. Donc soit vous avez fait quelque chose en MIDI et ça, vous avez un son, soit vous avez un enregistrement, sur quoi on joue pour faire de la musique. Donc le premier effet qui n'en est pas un mais qui est un levier sur lequel on peut agir, ça va être tout simplement le volume. Un instrument qui va être moins fort que les autres va être mis un peu en retrait, un instrument qui va être plus fort va être mis en avant, mettre la voix pour qu'on l'entende bien, des choses comme ça, c'est évident, mais c'est par là qu'il faut commencer. De même, on va voir ce qu'on appelle les fade-in et les fade-out. Donc fade-in, le fait que le son n'arrive pas brutalement, mais que le volume qui augmente petit à petit, de manière à ce que ce ne soit pas agressif et qu'on ait l'impression que, en gros, par exemple, si vous avez un piano qui arrive en fade-out, on a l'impression que le piano est en train d'arriver dans la pièce petit à petit, et c'est moins abrupt. Pareil, le fade-out, donc quand le volume diminue petit à petit, ça va permettre d'avoir quelque chose qui s'éteint progressivement, en fin de musique par exemple.
C'est un truc qu'on utilise aussi beaucoup dans le sound design, par exemple, pour faire apparaître les ambiances, etc. Faire un truc un peu plus smooth qu'un truc de but en blanc, et ça fait plus plaisir aux oreilles d'avoir un truc qui arrive tout doucement qu'un truc qui arrive d'un seul coup de but en blanc, que tu sursautes en fait sur l'effet du son. Quoi.
C'est ça. Je vais parler rapidement du pan, donc le fait de pouvoir mettre du son à gauche, du son à droite. Là, vous ne l'aurez peut-être pas parce qu'il est tout à fait possible que ce podcast soit en mono pour éviter que vous ayez à télécharger trop de données. Mais on peut agir sur le côté gauche, sur le côté droit. Ça peut donner des effets intéressants, ça peut rajouter du volume au morceau. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. C'est vraiment quelque chose de base. Quoi.
Et puis du coup, ça peut être utilisé pour la spatialisation, typiquement pour les sons.
Bah typiquement oui, on l'utilise pas mal par exemple pour placer des objets en 3D. Imaginons un personnage passe devant toi, bah et tu entends ces bruits de pas qui vont faire gauche puis droite puis qui vont s'éloigner avec le volume, et ça c'est pas mal utilisé aussi dans l'ASMR. ou avec les notions de spatialisation gauche-droite, oreille, tout ça.
Et faire... dans certaines catégories de musique, genre les Beatles qui abusaient du
pan. Oui, des... bah, ils ont découvert
abusé,
un truc.
Non. Mais ouais, voilà, c'était l'époque où il y avait plein de groupes qui en utilisaient plein et ça donne des trucs bizarres.
Et regardez,
aussi.
On peut mettre d'un instrument à gauche, un instrument à droite. Bon, on va le mettre full à gauche et il n'y a rien à droite. Et puis, ah, oh, bah, ça fait bizarre.
Du coup, ceux qui ont déjà essayé d'écouter les Beatles avec un casque en mettant qu'une seule oreille savent de quoi je parle.
Très bien. Effet que vous allez avoir absolument partout, ça va être la réverb. Gulli, tu peux nous mettre une réverb sur nos micros? Un truc cathédrale?
Une réverb voilà. Bien dégueulasse.
Voilà, donc c'est l'effet que le son se réverbe sur des murs, en fait. Donc là, tout est virtuel. On a l'impression qu'on est dans une église.
C'est super grand, Nadeo.
C'est immense.
Ils ont du budget.
Écho.
Voilà, tu peux enlever la réverb. Donc voilà, donc ça c'est la réverb, donc là c'est un type de réverb, il y en a énormément, il y a beaucoup de réglages à faire sur les réverbs, mais c'est ce qui va apporter pas mal de profondeur, notamment sur les voix. Vous avez de la réverb absolument partout, sur les guitares, sur les pianos, sur les voix, et c'est quelque chose, il faut y passer très très vite quoi.
Du coup, enfin, c'est une question un peu naïve, mais j'imagine qu'on peut avoir des réverbs différentes selon l'endroit dans lequel on est. Enfin, j'imagine qu'une réverb dans une forêt est complètement différente d'une réverb dans une cave.
C'est ça, en fait. En gros, il faut savoir qu'en fonction déjà du matériel sur lequel ça tape, ça ne va pas résonner pareil. Si ça tape sur du bois, sur de la pierre ou sur du verre, ça ne tape pas pareil. Tu vas avoir aussi pas mal d'effets par rapport aux matériaux. Par exemple, quand vous rentrez dans un appartement vide, ça résonne de ouf. Dès l'instant que vous mettez des meubles, ça résonne vachement moins. Et plus tu vas meubler ton truc, et plus ça va sonner différent. Et c'est pour ça que c'est un truc qui est vachement complexe, parce qu'au début, on avait des réverbes très linéaires, parce que c'est compliqué de modéliser vraiment de la réverbe. Puis, on a commencé à faire ce qu'on appelle des réverbes à convolution. Enfin, c'est des réverbes qui simulent la réverbe vraiment de façon de plus en plus réaliste. Et c'est très complexe, la réverbe, mais oui, en fonction des lieux, on ne va pas avoir le même rendu, et ça joue beaucoup.
Un autre effet qu'on trouve absolument partout, mais celui-là, on ne va pas pouvoir trop l'entendre, c'est le compresseur. Donc le compresseur, c'est ce que nous, on a sur nos micros actuellement, par exemple. Et ça va permettre, je ne vais pas rentrer en détail sur les compresseurs, ça demande beaucoup d'explications, mais en gros, de faire en sorte que les sons très forts ne soient pas très forts et que tout soit un petit peu au même volume. Je caricature énormément. Je ne sais pas si Gugli, tu peux enlever mon compresseur, juste pour voir ce que ça raconte. Donc là, vous m'entendez très très mal, et c'est normal, voilà. Tu remets, hop, voilà. Et ça permet, par exemple, si je crie, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas tester le compresseur jusqu'au bout, mais si je crie, vous n'aurez pas du volume trop fort dans vos oreilles, parce que le compresseur, justement, compresser le son pour éviter que ce soit trop fort.
Bah, l'idée du compresseur, c'est d'avoir un truc beaucoup plus homogène et d'avoir un truc qui va avoir ce qu'on appelle moins de dynamique, c'est-à-dire qu'il va avoir moins de son très bas et de son très fort, et il va essayer de trouver un juste milieu entre les deux pour que ce soit à peu près homogène, quoi.
Voilà. Le compresseur, c'est une science en soi-même, parce qu'on peut mettre plusieurs compresseurs en chaîne, des choses comme ça. C'est pareil, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous, le compresseur, clairement. Un autre effet qu'on a sur nos micros, ça va être la gate. Donc la gate, ça va permettre de couper tous les sons qui sont en dessous d'un certain volume. Si vous avez du bruit ambiant, par exemple, ça va permettre de ne pas les entendre. Et c'est un peu... si vous avez un instrument qui fait du buzz, par exemple, qui fait un petit bzzz en permanence, bah, ça va pouvoir permettre de couper ce son sur les blancs, par exemple. Quelque chose d'assez important, ça va être l'equalizer. Donc l'equalizer, en fait, le son, alors on ne va pas faire un cours de physique, mais le son est une fréquence, enfin est une onde, donc c'est de l'air qui se propage. Et du coup, ça a des fréquences. Et du coup, l'equalizer va permettre d'agir sur certaines fréquences, de les baisser ou de les monter. Par exemple, Jade, qui a une voix plus aiguë, donc elle va avoir sa voix plutôt dans les fréquences hautes, et on va pouvoir baisser certaines fréquences hautes pour agir sur sa voix, par exemple. Moi, je vais avoir une voix plus grave, donc on va plutôt agir sur les fréquences graves. Selon les instruments, on va agir sur différentes fréquences, et du coup, l'equalizer va permettre d'égaliser, entre guillemets, ceci pour avoir un son qui nous plaît plus, quoi, qui va être plus brillant, et plus intéressant. Est-ce que je peux vous faire écouter un equalizer? On va essayer.
Mais les basses à fond.
Antoine, mets-nous une phrase, dis-nous une phrase.
Très bien, je vais lire aujourd'hui dans The Game Makers, on va parler de la création de musique de jeux vidéo.
Donc voilà, donc là j'ai appliqué un filtre, un equalizer du coup, où j'ai baissé les basses et j'ai baissé les aigus, ce qui donne cet effet vraiment vieille radio, comme si...
limite au téléphone, quoi.
Voilà, c'est un petit peu ça. Bah, le téléphone coupe certaines fréquences, justement, pour pour qu'il y ait moins d'informations à transporter, tout simplement. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un equalizer. Il y a énormément de choses à faire et c'est ce qui va... C'est pareil, il faut passer du temps pour avoir exactement le son qu'on a envie d'avoir dans l'equalizer. Un effet qui va être très intéressant, ça va être le délai. Donc le délai, si vous voulez faire quelque chose dans l'espace, ça va être indispensable. Dès qu'il y a quelque chose d'un peu atmosphérique, où on a l'impression qu'il y a beaucoup de place autour de nous, le délai est assez important. Donc en fait, le délai va simplement répéter le son avec un petit temps derrière. Ah, Gulli, un délai. Voilà, donc un délai, c'est ça. Il y a beaucoup de types de délais. Merci.
On se croirait à une fête foraine.
Bienvenue.
Et le pompon, un qui aura le pompon.
Mais du coup, c'est ça ce qu'on appelle l'écho, en fait.
C'est une sorte d'écho. En fait, en gros, l'écho, c'est juste le fait que le son se répercute sur des surfaces. Maintenant, le délai, en fait, c'est une sorte d'écho. Mais en fait, l'écho, ça mélange de délai et de réverb, en fait. Okay.
Voilà. Après, il y a plusieurs types de délais. Il y a des délais qui vont aller à gauche, à droite, dans vos oreilles, etc. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Et du coup, c'est ce que je disais, c'est intéressant pour tout ce qui va être un peu spatial, un peu atmosphérique, etc. Effet qui est très connu dans le rock et le metal notamment, donc ça va être la distorsion, ça va être le fait de pousser un peu le son dans ses retranchements pour qu'il soit un petit peu distordu, un petit peu plus agressif. Gugli, fais-nous une petite phrase.
Une souris verte qui courait dans l'herbe. Une souris verte qui courait dans l'herbe.
Donc là, on voit que le son a été un petit peu... Il est un peu plus crunchy. J'ai pas mis une overdrive trop violente parce que je sais pas où est-ce que vous écoutez, je sais pas quel volume vous écoutez. Le but, c'était pas de vous agresser les oreilles. C'est un effet qui va être intéressant, notamment sur les guitares électriques, hein, évidemment. C'est pas nouveau, mais dès que vous allez essayer d'apporter un sentiment un petit peu de quelque chose d'un peu agressif, d'un peu sale, d'un peu cassé, la distorsion peut être assez intéressante. Effet un petit peu plus rigolo, ça va être le pitch, donc ça va être le fait de jouer sur la hauteur du son, donc quelque chose qui est grave va devenir plus aigu. Du coup, Jade, fais-nous une voix, une phrase, s'il te plaît.
J'adore Hollow Knight, c'est le meilleur jeu du monde.
J'adore Hollow Knight, c'est le meilleur jeu du monde. Donc,
ça permet vraiment de jouer sur la hauteur du son. Ça permet de déformer des voix. Si on poussait un petit peu le vis, on pourrait transformer par exemple la voix de Jade en une basse, par exemple, des choses comme ça.
Ou un Gribbins.
Là, c'était plus confessions intimes.
Ouais, confessions intimes, témoignages anonymes.
Voilà, donc le pitch est assez puissant. Ça permet vraiment de masquer un petit peu ce qui fait l'humain assez facilement aussi. On peut partir très très aigu aussi pour faire du chipmunk, des choses comme ça, des choses assez rigolotes. Et sinon, vous avez encore des tonnes d'autres effets. Vous connaissez forcément le vocodeur qui, dans la musique moderne, est partout. Vous pouvez avoir un effet comme si votre musique passait sur un vinyle. Enfin, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et pour ça, il faut chercher, expérimenter dans votre dos. Il y a énormément de VST de base, d'effets de base, et il y a beaucoup de choses à faire.
Ça s'appelle comment déjà l'effet sur les voix qui est beaucoup utilisé dans la musique ?
Le vocodeur.
L'autotune ?
L'autotune, oui, voilà. Oui.
Et si vous jamais vous connaissez pas bien, il faut avoir un Aurélien Montero sous la main. Ça marche super bien.
Disponible en toute heure de 24/24, 7 jours sur 7.
Maintenant que vous avez un petit peu tous les outils en main, vous avez votre matériel, vous avez tout ce qu'il faut, on va parler un petit peu de composition. Alors, je vais pas vous apprendre toute la théorie musicale comme ça en 5 minutes.
Je suis extrêmement déçu.
On va juste parler de 2-3 trucs, enfin, entre guillemets, des pointeurs pour savoir vers quoi chercher. Donc, la base de la musique, ça va être le solfège. Hein. En tout cas, chez nous, en Europe, le solfège, c'est quelque chose d'assez classique. Vous n'êtes pas obligé de connaître le solfège, mais ça peut énormément vous aider. Et ce qui va avec le solfège, ça va être la théorie musicale. Donc, comment composer des accords, comment faire des progressions d'accords, qu'est-ce qui va bien avec quoi. Tout simplement, un exemple très simple, assez classique, c'est un accord majeur, c'est joyeux, un accord mineur, c'est triste. Oui, ça, c'est le degré zéro de la théorie musicale, si vous voulez. Et ça, c'est un champ presque infini de recherche. Et ça va dépendre du style musical, mais ça va dépendre aussi potentiellement du pays, parce qu'on n'a pas tous les mêmes systèmes musicaux. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut creuser. C'est pas obligatoire, mais c'est intéressant pour faire de la musique assez simplement. Moi, ce que je vous conseillerais, ça va être l'expérience. De toute façon, plus vous allez écouter, plus vous allez faire de musique, plus vous saurez comment faire de la musique. Et écoutez beaucoup en détail des musiques que vous appréciez. Donc pas juste écouter le son et être satisfait du son, juste plutôt rentrer dans le détail. Donc là il y a une batterie, elle est comme ça, là il y a une ligne de basse qui apparaît à ce moment là il y a un fade in, il y a un fade out, il y a une reverb, il y a une disto, il y a un machin, à ce moment là il y a un pré-chorus, il y a un chorus, là c'est plus calme. Enfin, vraiment décomposer les musiques que vous écoutez.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à s'intéresser à la musique, que au tout début, en général, on écoute la musique de façon assez assez témoin, sans forcément apprendre à y prêter attention, mais ça, c'est quand même une façon d'écouter, c'est quand même quelque chose de, qui tient de l'apprentissage, parce que même si tu l'écoutes de façon un peu inconsciente, tu vas quand même décomposer, tu vas au fur et à mesure des écoutes de plus en plus analyser en fait. Et ce qui est bien quand on analyse les musiques et qu'on s'en sert de référence, c'est qu'on peut analyser le mixage, donc qu'est-ce qui va être le plus mis en avant, qu'est-ce qui va être le moins mis en avant, les différents effets inclus et les instruments utilisés. Et c'est comme ça qu'on apprend vachement à composer, par exemple dans un orchestre, savoir que tel instrument arrive à tel moment, etc. Même structurellement, savoir comment se compose un morceau, ça peut être pas mal de l'analyser, quoi.
Justement, moi, je pensais garder ça pour la fin du podcast, mais il y a une, enfin, il y a pas mal de chaînes YouTube qui parlent de musique, non la tienne.
Moi, abonnez-vous.
Abonnez-vous à sa chaîne. Je regarde régulièrement une autre qui s'appelle Tilou, T-Y-2-L-O-U.
Oui.
Et pour les gens qui connaissent rien, c'est assez cool parce qu'il fait un peu, il fait plusieurs choses différentes. Il y a entre autres des bases de la musique où il va expliquer voilà ce que c'est effectivement majeur, mineur, une gamme, etc. Pas mal de choses et aussi des analyses de partitions, soit de, enfin beaucoup de films, mais aussi de séries ou de jeux vidéo. Il me semble qu'il a dû faire genre Skyrim entre autres et quelques autres trucs. Et justement, bah, j'y pensais à ce que tu disais, bah, voilà, à quel moment arrive tel type d'instrument dans le morceau, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, donc on va mettre plutôt des cordes, des bois, donc il fait beaucoup de... Il est plutôt sur la musique symphonique, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres choses. Et c'est assez intéressant, en tout cas pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est pas mal.
Dans le même genre, un peu vulgarisation, un peu légère, il y a aussi Chronomusique qui fait des bonnes vidéos où justement il va décomposer un style de musique et faire ok, un style de musique ça marche comme ça, ça utilise plutôt telle gamme, tels accords, et il reprend un autre morceau et il le met dans ce genre-là et du coup ça permet d'apprendre quels instruments vont être plutôt mis en jeu dans tel style de musique et ça permet d'apprendre un peu à s'ouvrir musicalement à plein de styles, quoi.
Et c'est assez drôle au passage, donc
voilà.
C'est du bon divertissement en même temps si le côté musical vous intéresse un peu moins. On peut apprendre à tout âge à faire de la musique, il ne faut pas avoir peur que si vous n'avez pas fait du solfège depuis l'âge de 5 ans, on peut se mettre à la musique un petit peu à n'importe quel âge. La musique est quelque chose d'extrêmement vaste, d'extrêmement riche, donc il y a de la place pour tout le monde là-dedans, n'hésitez pas à vous lancer. Je voulais citer un peu Ben Prunty qui a fait tout un thread sur Twitter en qui il expliquait en gros toutes les galères qu'il a eues en musique et qu'il expliquait que lui il n'avait pas vraiment appris la musique, c'est un peu en autodidacte. Donc Ben Prunty, je rappelle Faster Than Light entre autres qu'on vous avait passé à l'épisode précédent. Donc si vous voulez faire de la musique, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans 7 ans de solfège, théorie musicale, conservatoire, etc. quoi.
Mais en même plus que ça, Ben Prunty il a un blog qui est encore en ligne, où justement il avait expliqué un peu tout son parcours et qu'il avait expliqué qu'à la base il faisait partie d'une sorte de brass band et il disait que tous les trucs, tous les projets dans lesquels il voulait s'investir musicalement, il s'était fait virer parce qu'il n'était pas assez bon. Et exactement. Du coup il a galéré pendant 10 ans à trouver l'affaire de la musique, il faisait plein de petits boulots et il continuait un peu la musique dans son coin, il a essayé de se former tout seul, il a acheté des petits bouquins. En gros en fait pour moi le solfège c'est bien si tu l'as appris quand t'étais jeune parce que tant que t'étais dedans bah tant mieux. Mais je pense que des fois, le format un peu des classes telles que ça existe actuellement, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Moi, je sais que j'en ai fait un petit peu.
C'est académique, quoi.
Voilà, le format académique ne marche pas forcément pour tout le monde. Moi, je sais que moi, ce n'est pas un truc qui m'a beaucoup plu. J'en ai fait un petit peu, mais j'ai vite arrêté parce que c'était pas juste pris les bases et après, je suis parti, quoi. Et du coup, j'apprends un peu tout en autodidacte aussi. Et je pense que c'est possible d'apprendre tout en autodidacte, surtout que maintenant, avec YouTube, avec toutes les formations qu'il y a sur le net, il y a vraiment moyen de trouver un truc qui te parle et qui va t'apprendre des trucs sans forcément passer toutes les étapes un peu, qui peuvent être un peu chiantes et pas forcément intéressantes pour le pratique.
Et il ne faut pas se dire que c'est quelque chose de forcément très dur de faire de la musique. On peut faire de la musique très rapidement en faisant pas grand-chose. Juste pour... Essayez, enfin, si vous savez vraiment pas par où commencer, parce que moi je sais que je suis passé par là un moment de, on est devant le dos et on sait pas quoi faire. Juste un petit exemple comme ça, juste pour vous montrer. Commencez par une ligne de basse, mais absolument quelconque, n'importe laquelle. Voilà, une ligne de basse. J'ai vraiment jeté des notes au hasard. J'ai vraiment fait ça hier soir à l'arrache. Rajouter une rythmique de batterie complètement à la con. On plaque une grille d'accords, piano, synthé, violon, n'importe quel instrument comme vous voulez. Histoire d'ajouter un peu d'ambiance. Et une petite mélodie. Et vous avez musique de jeu vidéo instantanément, quoi.
Et maintenant, Kaira peut poser son flow, tel le plus grand rappeur du game maker français.
Voilà, donc ça m'a vraiment pris 3 minutes à faire ça hier soir.
Bon, alors ça se voit pas trop parce que c'est un podcast, mais on est tous en train de danser là.
on se fait le morceau en entier à la fin. Donc voilà, c'est vraiment des choses assez basiques. Là, je vous parle de composition vraiment bateau, il n'y a vraiment rien. Mais il ne faut pas hésiter à commencer par des choses très très simples et ça peut marcher très facilement. Quoi.
Et dans une game jam, entre ça et pas de musique, ça fait clairement une différence énorme. Oui. Quoi. Même si ce n'est pas top, même si machin, on peut trouver plein de trucs à redire.
Oui, et puis il faut commencer quelque part. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé. Un jour, je ferai une vidéo sur mes premières musiques. Vous allez voir que je suis parti très très loin quand même. Donc, faut se dire qu'on a tous commencé quelque part. Ça ne va pas être parfait dès le début et que vous pouvez que vous améliorer. Donc,
C'est ça. Et puis finalement, c'est un peu comme dans tous les domaines. On en parle. Enfin, nous, on le dit souvent. Quand, si vous voulez vous lancer dans la création de jeux vidéo, commencez par un jeu simple, petit. Ce qui est important, c'est d'essayer de finir les projets et pas de se lancer dans un gros truc qu'on finira jamais. La musique, c'est pareil. Il faut commencer par un truc simple avant de tout maîtriser. Ça prend des années, donc...
Bah typiquement, moi j'ai fait un jeu de game jam en solo, j'avais jamais fait de graphisme, je suis parti en mode YOLO 48 heures et j'ai sorti un jeu, bon la bande-son était le plus réussi, mais ça va pas lire, mais ça tournait quoi.
Voilà, et après de toute façon la musique c'est une expérience personnelle, donc à chacun d'expérimenter, de tester, de jouer avec tout, enregistrez-vous en train de taper sur une casserole et remixez-le, enfin faites ce qui vous plaît, l'important c'est que vous preniez du plaisir déjà dedans.
Au pire vous ferez une YouTube poop après.
Effectivement, on peut faire des YouTube poop. Un truc qui peut être intéressant, ça va être de faire des covers de musique que vous aimez. Comme ça, vous allez bien comprendre comment elles sont structurées, etc. Et ça vous permet, après vous, de faire de la musique dans un style que vous savez que vous aimez. Quoi. C'est con, mais ça peut être une possibilité. Vous avez fait votre musique, ok, elle est sur votre ordinateur, très bien. Maintenant, il faudrait pouvoir la partager à d'autres gens, parce que j'imagine que si vous aimez votre travail, vous avez envie de le faire entendre à des gens. Donc on va parler un petit peu de l'export audio. Je ne vais pas non plus rentrer dans des détails trop techniques, mais deux, trois petites bases pour pas se planter. Quoi. Donc, dans les formats audio, il y a trois grands types. Donc, les formats non compressés, donc qui sont des formats très lourds. Le plus répandu, ça va être le format WAV ou WAVE, comme vous voulez, moi j'appelle ça WAV, qui a utilisé tant que vous travaillez sur le morceau, vous restez en point WAV parce que vous n'avez pas de perte. Donc, si vous commencez à enregistrer par exemple en MP3 avec de la perte et que vous faites des modifs et que vous réenregistrez en MP3 avec plus de perte, etc., vous allez perdre de la qualité au fur et à mesure. Donc, tant que vous travaillez avec votre format non compressé et juste à la fin, vous compresserez. Autre format compressé, il y a l'AIFF qui est plutôt chez Apple. Voilà, après, ça dépend de vos machines, etc. Moi, je conseille le WAV. Tout le monde sait ouvrir le WAV et traiter le WAV normalement, donc c'est bon. Ensuite, vous avez les formats audio compressés, mais sans perte, comme le FLAC. Donc là, il y a un algorithme de compression du son. Donc le fichier va être plus léger, tout simplement. Mais vous n'aurez pas de perte d'information, donc vous aurez la qualité originale du son. Et la troisième partie, donc c'est la compression avec perte. Donc cette fois-ci, on va gagner beaucoup de place, le fichier va être beaucoup plus petit, mais on va perdre de l'information. Donc les algos ont fait en sorte qu'on perde l'information qui est la moins utile, en théorie, mais en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Si vous avez connu la grande époque Casa Emule, vous savez qu'on peut avoir des fichiers très compressés, tout pourris. C'est pas une science, mais c'est quand même, il faut jouer un petit peu avec pour bien comprendre sur quels paramètres jouer pour garder un maximum de qualité, en fait.
J'imagine que dans le plupart des logiciels, il y a des presets qui sont déjà prévus, de toute façon.
Oui.
Sur la plupart des logiciels, ils te prévoient pas mal de trucs. Après, par exemple, dans la plupart des jeux, on ne va pas compresser de la même façon en fonction de la plateforme pour laquelle on exporte. Par exemple, moi, quand je bosse sur des jeux, en général, tout est en wave de base quand je l'envoie dans le projet, et après, je le compresse dans le software de jeu, pour ensuite compresser en fonction des différents trucs. Par exemple, si je vais compresser de l'ambiance, je vais pas la compresser de la même façon que les SFX, que la musique, etc. Et du coup, je vais jouer sur celle de qualité jusqu'à avoir un truc qui pèse pas trop lourd pour le jeu et qui soit quand même le plus qualitatif possible. Quoi.
Un peu plus de taf, quoi.
C'est ça. Puis en plus, en fonction de si tu plates, si tu exportes pour du mobile, tu vas essayer de compresser beaucoup plus parce que tu auras beaucoup moins de place que si tu exportes pour de la PS4 ou de la Xbox One. Quoi.
Effectivement. Bon, dans les formats de fichiers compressés, donc si vous voulez juste l'envoyer sur Internet, par exemple, donc vous avez le plus courant qui va être le MP3, évidemment, mais je vous citerai quand même l'AAC et LogVorbis, qui sont des concurrents tout à fait valides. C'est juste que dans la guerre des formats, c'est le MP3 qui a gagné.
Sauf dans tout ce qui est milieu comme le jeu vidéo, on exporte plus en Vorbis parce que c'est libre de droit que le MP3, non, il y a des droits sur le MP3.
Ouais, je me rappelle quand on était, je pense, ouais, peut-être l'époque lycée ou... etc. On avait de temps en temps, enfin moi j'écoute déjà pas mal de musique de jeux vidéo et j'avais récupéré des albums en point OGG et genre au début je fais mais qu'est-ce que c'est que ça, genre mon soft il l'utilise pas, enfin il sait pas l'ouvrir, genre il y avait même les softs de base, il savait pas les ouvrir à l'époque, il fallait genre aller chercher le plugin Winamp qui ouvrait les points OGG pour pouvoir lire ta BO de je sais pas, enfin
Winamp, repose en paix, ouais. Petit ange parti trop tôt.
Dans les paramètres d'export, je vais très rapidement parler du bitrate, donc les kbps, le kilobit par seconde. Donc ça va être le nombre de bits informatiques donc, utilisés pour encoder une seconde de musique. Donc plus ce nombre est grand, plus vous aurez de qualité audio, parce que vous n'allez pas perdre d'informations. Mais vous n'aurez jamais plus de qualité audio que l'original, hein, faut pas se mentir, c'est pas, ça va pas rendre votre son meilleur. Et par contre, bah, plus c'est grand, plus le fichier sera lourd. Hein, c'est toujours pareil. Là, Aurélien, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller en dessous de 96 kbps, mais c'est...
Et encore, moi, je serais même en mode, si vous pouvez rester à 320 tout le temps, restez en 320 tout le temps, parce que enfin, le gap de qualité est tellement ouf entre 192 et 320. Enfin, quand vous mettez Spotify en haute qualité, on voit tout de suite la différence. Et je pense que vos oreilles vous remercieront si vous êtes capable de différencier après et d'avoir une qualité audio au-dessus, quoi.
C'est ça. Après, ça dépend, effectivement, les gens qui ont l'oreille un peu entraînée vont plus l'entendre. Et surtout, ça va dépendre aussi du matériel. Si vous avez un casque tout pourri, de toute façon, votre son va être un petit peu tout pourri. Donc, vous n'entendrez pas la différence, quoi.
D'ailleurs, il y avait un site qui avait fait un petit test où il te faisait écouter un morceau. Dans différentes qualités, tu devais dire lequel était le plus qualitatif.
C'était le Golden Ear de Philips.
Ouais, je crois.
Il n'existe plus, j'ai recherché.
Ah ouais ?
Il n'existe plus, ce site, malheureusement. Et je suis passé sur SoundGym, je crois, qui fait une espèce d'entraînement pareil à l'oreille absolue. C'est assez intéressant. Mais c'est très dur, c'est très très dur quand vous n'avez pas l'habitude.
C'est très bien parce que ça montre aussi justement jusqu'où on peut aller en se disant bah tiens là j'entends plus la différence, c'est peut-être que ça sert à rien d'aller plus haut. Si le 90% des gens n'entendent pas la différence entre deux formats, autant prendre le plus petit quoi.
Mais c'est assez intéressant de se dire que c'est aussi quelque chose qui s'entraîne quoi. Que autant il y a plein de nos sens qu'on ne peut pas entraîner, alors autant celui-là, l'audio, on peut vraiment s'y habituer et s'améliorer là-dessus quoi.
Oui, oui, tout à fait.
Oui, puis de toute façon, il y a, même pour moi, des fois, il y a des trucs où de la nuance est très complexe. Il y a pas longtemps, il y avait une société qui cherchait à faire des tests et ils avaient pris un morceau qu'ils avaient mixé à trois endroits différents, dans un home studio, dans un vrai studio et par un bot. Et on devait dire lequel était par le bot, lequel était par le home studio et lequel. Et c'est très difficile. Moi, j'ai eu tout bon parce que je suis bon, mais c'était, franchement, c'était dur hein, parce que j'ai dû réécouter au moins 5-6 fois pour me dire attends, lequel me semble le plus froid des trois. Lequel ressemble plus à ce qu'on pourrait avoir en home studio, etc. Et je pense que la plupart des gens n'y verraient que du feu, parce que c'est tellement léger, et ça, c'est du filigrane, quoi.
C'est ça. Effectivement, du coup, 320 kbps, donc ça, c'est à bonne qualité, c'est Spotify en haute qualité, c'est ce qu'ils proposent, voilà, pour vous faire une idée. Autre facteur sur lequel on peut influer, c'est le sample rate, donc ça va être le nombre d'échantillons de son enregistrés par seconde, donc un échantillon, ça va être l'amplitude du signal à un instant donné. Je ne vais pas rentrer plus en détail, on va repartir sur des cours de physique, ça va être un petit peu long. Le bon choix de base, enfin, je crois que c'est d'ailleurs l'option par défaut dans la plupart des logiciels, ça va être 44,1 kHz. Après, à vous d'ajuster.
Je pointerai en disant que le 44.1, c'est ce qui est le plus utilisé de manière générale. Et on utilise le 48 pour tout le format audiovisuel. Donc tout ce qui va être film, court-métrage, etc., on utilise le 48 avec 24 bits en général.
Voilà. Très bien, très bien. C'est pour ça qu'on t'a invité.
Je suis monsieur complément d'information.
Pour ces questions-là. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui va être l'export audio. On va faire un petit détour par le sound design, qui n'est pas très loin de la musique, mais qui est quand même un métier un petit peu différent. Donc pour le sound design, globalement, tout ce qu'on a dit avant est valable, est valide. Vous avez les mêmes outils, vous avez les mêmes possibilités. Il y aura des choses en plus dans le sound design. Ça va être que, par exemple, pour faire un bruit de porte, vous pouvez enregistrer un bruit de porte chez vous, mais vous n'avez peut-être pas toujours tout ce qu'il faut sous la main. Par exemple, si vous voulez faire le son de quelqu'un qui plonge dans l'océan, vous n'avez peut-être pas l'océan sous la main et vous n'avez peut-être pas surtout amené votre micro à l'océan.
Moi, j'imaginais quelqu'un qui avait une maison sans porte, du coup, quand tu as dit ça.
Je me suis rendu compte que ce pas le bon exemple, effectivement. Du coup, là, la difficulté, ça va être un petit peu de trouver les sons qui correspondent à ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire des bruits de pas, il va falloir, par exemple, des bruits de pas dans la neige, il va falloir trouver un petit peu les sons de neige écrasée. Donc, soit les enregistrer vous-même, soit arriver à les trouver, par exemple, sur freesound.org, ces choses-là. Ça va être un petit peu cette difficulté-là de trouver les bons sons.
Soit utiliser quelque chose de complètement différent, mais par contre, à l'oreille, on aura l'impression, par exemple, pour la neige, alors j'imagine peut-être le coton, tu vois, on peut dire bah, ça peut avoir un son un peu de crissement qui ressemblera...
En fait, le sound design, c'est un très très grand mensonge et une très très grosse supercherie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous fait croire et que c'est pas vrai. Genre typiquement, j'ai un exemple vraiment parfait, c'est que hier, je devais enregistrer le bruit de quand on tape sur un volant de voiture. Et j'avais énormément de flemme d'aller me lever pour aller chercher. Du coup, j'ai tapé sur mon fauteuil en cuir et ça faisait tout pareil. Et ça marche très bien et on y voit du feu. Donc
voilà, donc c'est ça. C'est un petit peu la grande supercherie de comment faire ce son que je n'ai pas sous la main, qui n'existe pas potentiellement, parce que les sons de blaster, typiquement, comment on les fait ?
Son de vaisseau spatial, bon, c'est un peu compliqué.
Voilà, donc là, ça va être chercher des sons et les retravailler, quoi.
Deuxième supercherie, dans l'espace, il n'y a pas de son. Donc, on vous a tous menti. on n'entend rien dans l'espace, ça ne marche pas. Et non, mais il y a beaucoup de choses comme ça où le sound design, en fait, le plus dur au tout début, c'est de se figurer comment je vais faire tel son et comment je vais arriver à mon résultat. Et il y a plein de trucs que tu apprends, notamment par exemple à chercher des sons. Parce que c'est savoir quel mot-clé il faut que tu tapes pour trouver le son que tu veux, c'est pas simple. Ou comment je vais faire pour enregistrer mon son. Par exemple, voilà, imaginons que tu veux enregistrer un son de clapet de téléphone des années 90. T'as plus de téléphone des années 90 chez toi. Bah, qu'est-ce que je peux trouver qui va faire un bruit le plus proche de ça pour faire croire à l'auditeur que c'est ça, quoi.
Effectivement, du coup, tu vas trouver quelque chose en plastique.
Voilà, donc du coup,
une boîte en plastique.
Et du coup, tu vas passer pour un malade à prendre tous les objets chez toi et faire à taper partout et faire. Ah, ça marche pas.
Bah d'ailleurs, c'est. Enfin, je dis ça parce que j'ai fait un stage justement dans une boîte de bruitage et j'avais été vraiment surprise d'apprendre que c'était pour des séries en fait et ils refaisaient tous les sons. Il n'y en avait quasiment aucun qui était enregistré au moment vraiment où la scène tournait. Ils refaisaient vraiment tous les sons par-dessus. Mais du coup, ils faisaient tous les sons dans leur studio d'enregistrement. Et c'était pour une série où, voilà, où il y avait des coups de feu, tout ça. Donc ils avaient certains qui étaient déjà enregistrés. Mais sinon, ils se débrouillaient en fait pour trouver avec du sable, avec des baguettes, enfin voilà, plein de trucs. Ils refaisaient tous les sons comme ça et c'était vraiment bluffant de se dire qu'on y croyait vraiment alors qu'en fait, pas du tout.
En fait, généralement, il y a beaucoup de trucs qu'on rajoute en post-prod. Par exemple, les bruits de porte qui claquent, ça sonne pas très bien en général en vrai. Du coup, on vient les rajouter. Par exemple, quand on se déplace, on fait du bruit, mais ça s'entend pas forcément au moment où on fait la prise. Du coup, on va venir le rajouter. Il va y avoir plein de trucs comme ça qu'on va venir rajouter par-dessus pour donner un peu plus de cohérence parce qu'en fait, la réalité, quand on enregistre comme ça, ça n'est pas très sexy. Et du coup, on va rajouter plein de sons à droite à gauche pour donner ce côté un peu plus... Voilà, c'est par exemple les sons de tir. Les sons de tir, ça ne sonne pas comme ça dans la vraie vie. Mais dans l'imaginaire collectif, ça doit sonner vachement bam, ça impacte et tout. Et du coup, on va venir mentir au spectateur en disant bah, ça sonne comme ça parce que tu as envie que ça sonne comme ça pour que ça soit cohérent pour toi. Quoi.
Bah, c'est surtout vrai aussi pour les sons des combats. Où genre,
oui, ah exactement bah... ce que j'allais dire. J'avais la même genre les coups de poing où ça fait un bruit de ouf alors que bon, en vrai... Fin...
C'est ça.
T'as pas de...
Les genre tu sais quoi.
Les pistolets silencieux.
Ouais, moi,
tu te bats et tout.
J'ai vécu dans la street.
Donc du coup voilà, ça va être le jeu de trouver le bon son qui va remplacer le vrai son et potentiellement il va falloir tordre ces sons pour leur donner des effets. Donc avec tous les effets dont on a parlé tout à l'heure, mais plein d'autres, agir sur ce son. Typiquement, le son qu'on a fait écouter tout à l'heure d'Equalizer, on peut s'en servir pour simuler une vieille radio qui serait dans un coin. Ça peut être des choses intéressantes. Voilà un petit peu les difficultés de sound design.
D'ailleurs, si vous voulez voir un peu tout ce qu'on peut faire avec des effets, il y a une très bonne chaîne YouTube, elle est en anglais, ça s'appelle, c'est par le sound designer de Hyper Light Drifter qui s'appelle Akash Takar, qui est un mec très sympa d'ailleurs. Et il a fait plein de vidéos tuto sound design assez basiques en montrant avec 2-3 effets ce qu'on peut faire. Et pour le coup, tous les effets qu'il montre, on peut les retrouver dans tous les dos et du coup, c'est assez cool pour ceux qui voudraient voir un peu ce qu'on peut faire avec pas grand-chose. Quoi.
Très bien.
C'est un peu le principe du podcast, ça tombe bien.
Ouais, bah je place tous les copains que je peux placer.
N'hésite pas. Après, nous, ça nous prend une demi-heure à tout retrouver et à mettre sur la page de Radio Kawa, mais généralement, tout y est. Du coup, vous avez votre musique, vous avez vos sons. Maintenant, c'est comment on les intègre dans le jeu, parce qu'il ne suffit pas juste, comme on le disait au début, de juste lancer la musique à un moment et l'arrêter à un autre moment. C'est un petit peu plus technique que ça, parce que le jeu vidéo est un médium vivant, dynamique, sur lequel vous agissez. De toute façon, la première étape, ça va être d'utiliser votre moteur de jeu à vous, Unity, Unreal, ce que vous voulez, et d'intégrer vos sons dedans. Ça, c'est l'étape zéro. Voilà, et vous dites, quand j'arrive au niveau 1, je lance ma musique. Quand j'arrive au niveau 2, je lance ma deuxième musique, etc. Ça, c'est le niveau zéro. Et après, vous allez avoir des moteurs spécialisés dans le son, comme FMOD ou WISE, par exemple, qui vont s'intégrer dans votre moteur Unity, etc. Et qui vont vous permettre de faire des choses beaucoup plus intelligentes au niveau du jeu. Vous allez faire ce qu'on appelle du layering, donc vous allez avoir des instruments, enfin vous allez avoir des couches d'instruments que vous allez ajouter au fur et à mesure. Par exemple, plus vous avancez dans un niveau, ou plus l'action augmente, l'intensité augmente dans le jeu, vous allez rajouter plusieurs instruments et du coup tout ceci va être dynamique en fonction de ce que vous faites. Par exemple, vous avez un combat qui se déclare, vous allez rajouter plus d'instruments. Ça va être un petit peu le niveau d'après. Et vous allez aller encore plus loin, potentiellement, en découpant des morceaux de musique, avoir des petites boucles de musique qui vont tourner. Et, par exemple, dans Wise le fait très bien, vous allez pouvoir dire le combat commence. Donc Wise, il va dire, OK, je vais aller chercher cette version de la musique, mais la version combat. Il y a plein d'ennemis. Donc Wise, il va dire, OK, donc la version de la musique avec plein d'ennemis. et il va enchaîner ces petits bouts de musique en fonction vraiment de ce qui se passe en temps réel. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, c'est très visuel.
Alors, c'est exact, tu as très bien expliqué. Ce qui est assez intéressant en fait avec tout ce qui est ces moteurs-là qui se rajoutent sur les softwares de jeu, enfin les moteurs de jeu, c'est qu'en fait ça permet aux mecs qui vont bosser sur le son d'avoir beaucoup plus de contrôle et de permettre de faire beaucoup plus de choses. Par exemple, tu as parlé de layering. Un exemple typique, c'est que par exemple, quand un joueur va faire une action, on va prendre par exemple Assassin's Creed, il donne un coup d'épée. Ça va faire un son. Si, pour que ce soit un peu réaliste, on va faire ce qu'on appelle un random, c'est-à-dire qu'on va faire 10 sons différents qui vont être des nuances du même son, qu'on va jouer dans un ordre aléatoire. Et par exemple, ce qu'on peut faire pour redonner encore plus de réalisme, c'est prendre le son d'épée de base, dire, ok, quand tu tapes sur telle texture, par exemple du bois, ça va rajouter un layer de bois qui va venir du coup rajouter ça, plus éventuellement d'autres trucs avec des mouvements, de l'intensité, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de nous rapprocher un peu plus du réalisme et de donner beaucoup plus d'enjeux. Par exemple, dans un combat, si tu tapes plus ou moins fort ou si tu réussis des combos, tu peux peut-être faire des sons de plus en plus impactants. Quand on parle de musique, par exemple d'intégration de musique interactive, de dire que, par exemple, quand tu passes de l'état hors combat à combat, ça va y avoir une progression fluide. Ensuite, si le joueur décide d'arrêter de combat à n'importe quel moment, bah, il peut transitionner tout seul. Et du coup, c'est assez intéressant parce que c'est devenu presque une science qui commence à se mettre en place, de dire comment je vais faire pour gérer ma musique de façon à ce que ça soit fluide, que le joueur n'y voit que du feu et que ça lui semble ultra naturel. Et du coup, quand c'est ultra naturel, ça plaît vachement au joueur parce que du coup, il a l'impression que ce qu'il fait a vraiment de l'impact dans le jeu et que ça influence le jeu en fait.
Ouais, t'es beaucoup plus dans l'ambiance comparé à, on en parlait un peu au début, c'est t'arrives à un endroit, la musique se met d'un coup à aller vite, tu sais qu'il y a un boss quoi. Alors que maintenant, c'est vrai qu'il y a des jeux où t'arrives petit à petit, t'as l'ambiance qui se met en place et sans t'en être vraiment aperçu, t'es plus dans le même état d'esprit. Tu t'es pas dit, ah, il y a la musique qui va vite, il y a un boss, c'est juste. C'est devenu plus. C'est devenu d'un coup, enfin pas d'un coup justement, mais au fur et à mesure, plus pesant ou quelque chose comme ça, et tu t'es mis dans le même état d'esprit. Quoi.
Bah, en fait, avant, on utilisait des techniques de triche. Par exemple, moi, l'exemple que j'ai typique pour ça, c'est Final Fantasy, où tu te baladais, puis d'un coup, t'avais une cassure, et là, t'avais la musique qui commençait, ce qui peut-être cachait la transition. Maintenant, en fait, avec tous les systèmes de musique interactive, on peut réussir à faire des transitions. Par exemple, je sais que sur FF15, ce qui est assez marrant et ce qui a dû être très galère à faire, c'est qu'en gros, la musique a été composée de façon linéaire. Et après, c'est un mec, un audio programmeur, qui a créé un moteur de jeu de son pour faire de la musique interactive à partir de la musique finie.
Je pense que c'est vraiment une plus-value en fait, de vraiment connaître Waze. Parce que bah, clairement, enfin, nous, je sais qu'au boulot, c'est ça qu'on utilise. Et je pense qu'énormément de studios utilisent ça. Donc, c'est un peu comme Photoshop, ça devient assez de base. Quoi.
Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'avais exactement cette position-là. Et il n'y a pas longtemps, j'ai bossé sur FMod. Et en fait, FMod est ultra surprenant parce qu'il fait des trucs. Alors, moi, je préfère Waze parce qu'en termes d'interface, ça me parle plus. Mais FMod, il y a des trucs que je pensais pas qu'on pouvait faire et qui sont vachement cool. C'est juste que c'est un petit peu moins intuitif certains trucs. Mais il a quand même de la puissance, hein, le petit. Hein. Il se défend bien. En plus, il a des sacrés avantages quand on est indépendant parce qu'il y a des tarifs assez préférentiels. Et on peut faire des trucs assez simples. Ça aussi, c'est un truc qui est assez fort avec FMod. C'est que de base, par rapport à Waze, ça fait moins peur et t'as potentiellement moins de problèmes. Quand t'es indé, par exemple, t'as envie de faire un peu de son, un truc un peu sympa, à peu près tout le monde peut utiliser FMod et l'intégrer et réussir à faire un truc à peu près potable avec pas grand chose. Moi, j'ai des potes, j'ai un ami game designer, quand on bosse en game jam, bah, des fois il va toucher mon projet de FMod parce qu'il sait à peu près s'en servir et faire 2-3 trucs pour modifier un peu le son, quoi.
Si vous voulez un peu plus une démo de Waze, je vous renverrai vers la masterclass d'Olivier de Rivière qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, où il fait une démo en live du coup de comment il l'utilise dans Remember Me. C'est super intéressant. Enfin, toute la masterclass est très intéressante, mais ce passage-là est particulièrement intéressant pour comprendre comment ça fonctionne et comment on fait l'interaction entre ce que fait l'utilisateur et ce qui se passe au niveau musical. Et tu parlais d'indépendant, Aurélien. Je sais que c'est un sujet assez important en France. C'est que les grosses boîtes de jeux évitent d'embaucher des musiciens français pour des raisons de droit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, alors en fait, c'est assez complexe parce qu'en gros, actuellement, tu peux protéger ta musique à la SACEM. Mais le problème, c'est que ça fait extrêmement peur à toutes les boîtes, que ce soit françaises ou internationales, parce qu'en gros, la SACEM n'existe qu'en France. Enfin, autrement, on protège ça via des copyrights et des notions de droits qui sont de toute façon immuables. C'est-à-dire que même sans la SACEM, tu as des droits que tu gardes. C'est-à-dire que tu peux céder tes droits, mais tu n'as pas le droit de céder tous tes droits, sinon c'est illégal. Et en gros, tu peux protéger ta musique par plein de façons. Donc, tu as la SACEM. Et la plupart des boîtes de jeux, leur critère principal, c'est de dire est-ce que tu as la SACEM ? Oui, non. Si oui, on ne peut pas bosser avec toi. Parce qu'en fait, c'est très embêtant pour eux. Parce que imaginons, tu dis oui, je vous cède des droits et il n'y aura pas de souci et je ne vais rien vous demander de plus. Mais si tu es à la SACEM, tu as techniquement le droit de demander à n'importe quel moment des retours d'argent de la part de la boîte. Et du coup, ça leur fait extrêmement peur de se dire que pendant X années, ils vont devoir vivre avec une sorte d'épée de Damoclès sur la tête en se disant à tout moment, le mec peut la mettre à l'envers et voilà. Du coup, la plupart des gens évitent de se prendre la tête et passent par ce qu'on appelle de la prestation de service. C'est-à-dire qu'en gros, tu es une entreprise, enfin, le compositeur est une entreprise, tu fais une commande avec un devis et une facture. Et une fois que le projet est fini, tu cèdes des droits précis, comme une commande en fait. Et une fois que c'est fini, bah, tu touches ton argent au moment T et basta. C'est la méthode la plus utilisée en ce moment. Même si la SACEM, enfin, il y a pas mal d'acteurs du milieu du jeu vidéo, en tout cas du son, qui se battent pour essayer de créer une situation où on peut être à la SACEM et pouvoir quand même bénéficier de la protection de la SACEM sans autant avoir tous ces inconvénients dus au jeu vidéo, qui est un cas un peu particulier. Parce que par exemple, quand on travaille pour de l'audiovisuel, c'est pas gênant d'être à la SACEM, parce que justement, ça permet de... Pour eux, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils payent des droits, X droits tous les ans. C'est un peu complexe. Hein, et ils peuvent utiliser toutes les musiques de la SACEM en reversant les droits de façon un peu automatique, quoi.
Très bien, merci pour ces explications. Effectivement, c'est un cas assez particulier et ça rebouche sur ce qu'on disait au début, que l'univers de la musique de jeux vidéo est encore pas très mature et du coup, on n'a pas encore tout l'arsenal juridique et légal pour s'y attaquer, quoi.
Alors c'est vrai que du coup, si vous allez vous lancer, peut-être que vous dites que c'est pas encore une question qui est très importante, mais c'est quand même bien d'y réfléchir, au moins même si vous voulez lancer un jeu, enfin, savoir qui possède les droits. Et c'est pour ça qu'on a eu, en lisant pas mal d'interviews justement de compositeurs, beaucoup disaient qu'ils avaient en fait un contrat américain justement pour éviter toutes ces problématiques-là. Donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, mais il ne faut pas forcément l'oublier dès le début, quoi, en se disant on s'en fout, je fais de la musique, c'est ma passion et je m'en fous de mes droits. Donc il faut quand même y penser et le garder, surtout si vous comptez gagner de l'argent dessus.
Et oubliez pas un truc, c'est que quand vous êtes à la fin, c'est pas parce que vous n'êtes pas inscrit à la SACEM que vous n'avez pas de droit en fait. C'est-à-dire que de base, vous avez le droit d'auteur, vous avez énormément de droits. Des droits patrimoniaux, qu'on appelle ça, où en gros, même si vous n'êtes pas inscrit à la SACEM, vous avez vos droits de base. Maintenant, c'est juste que la SACEM va permettre d'être un organisme qui va gérer vos droits et surveiller l'utilisation qu'on en fait. Et gérer en fait toute la partie, récupérer vos droits et vous les transmettre en fait. Tout l'argent qui va être généré par vos productions.
Cette partie de dossier principal est concluse. On va maintenant passer à la coupure musicale. Qu'est-ce qu'on a comme musique, Adrien, s'il te plaît?
J'ai choisi un compositeur français qui s'appelle Aurélien Montero.
je ne connais pas.
On va vous passer un morceau qui s'appelle Cyberfight.
Donc on vient d'écouter Cyberfight d'Aurélien Montero, ici présent.
Oui, c'est moi.
Juste avant de reprendre, on va faire une petite auto-promo pour Radio Kawa, et cette fois-ci, on ne va pas la lire.
Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.
Merci Lou. Sur Patreon, oui, venez nous soutenir sur Patreon, sachant que je crois que c'est à partir de 5€ par mois, vous avez accès au pilote, et notamment au pilote de The Game Makers, donc cet épisode 0 qui va parler des moteurs de jeux vidéo, comment choisir votre moteur, etc. C'est assez c'est artisanal, hein, c'est underground.
C'est le premier, quoi.
Vous allez voir, il y a de la musique incroyable, il y a des jingles de fou, donc n'hésitez pas à aller sur Patreon, je crois que c'est à partir de 5€ par mois.
Très bien, donc après ce dossier, cette petite pause et cette petite auto-promo, on va passer à l'interview de l'invité, Jade.
Oui, alors j'ai plein de questions pour toi Aurélien, et la première assez classique, c'est du coup comment tu t'es formé à ce métier? Est-ce que tu as fait une formation? Est-ce que c'est que l'autodidacte?
Alors j'ai commencé la musique, je crois que je devais avoir 15 ans, mais en fait il faut savoir que depuis tout petit j'écoute énormément de musique, c'est-à-dire que je jouais à certains jeux juste pour écouter la musique, donc c'était très rudimentaire, et en fait j'ai commencé à faire de la musique genre vers 15 ans, où j'ai commencé à faire de la guitare, j'ai essayé de monter des groupes, ça marchait pas, mais j'ai quand même essayé. Et après le lycée, en fait, je suis parti dans une école qui s'appelle Isart Digital à Paris, en musique et sound design, pendant 2 ans, où je me suis formé vraiment au métier de musique et enfin de compositeur et sound designer, et voilà.
Très bien, et du coup on a parlé aussi beaucoup de matériel, qu'est-ce que toi tu utilises?
Plein de trucs. En fait, au tout début, j'ai commencé avec des trucs assez basiques, genre clavier MIDI, carte son, paire d'enceintes, un truc assez simple. Puis j'essaie constamment d'acheter du matos. J'ai acheté un Ableton Push parce que je trouvais le système de travail assez cool. Je commence à acheter des synthés, j'ai acheté des guitares, basses, didgeridoo. J'ai plein de trucs.
C'est pointu. Ça.
Ah oui, non, mais j'ai beaucoup, beaucoup de trucs parce que comme je touche à pas mal de genres, j'aime bien avoir plein d'instruments et des trucs un peu aussi originaux. Du coup, quand je peux, par exemple, je surveille vachement les Kickstarter et les Indiegogo pour voir les nouveaux instruments qui sortent et des trucs un peu obscurs en me disant, je sais pas si ça me servira, mais au moins ça sera rigolo.
D'accord, donc du coup, là tu parlais, du coup, tu as beaucoup d'instruments, donc c'est aussi pour les enregistrer,
oui,
et pouvoir les utiliser. Est-ce que tu les retravailles après?
Je les retravaille tout le temps. C'est-à-dire que de base, je ne me sers jamais du son brut et je le retravaille tout le temps. Et des fois, même par exemple, les synthés, je m'en sers pour faire des trucs de sound design, par exemple, des ambiances, des trucs comme ça.
Très bien. Alors, du coup, là, c'est une question parce que tu as parlé tout à l'heure que tu faisais plein de styles différents. Est-ce que du coup, tu t'inspires des musiques que tu écoutes ou pas? En fait, je te pose la question parce qu'en fait, il y a beaucoup de compositeurs qui disent qu'ils font de la musique, mais c'est pas du tout la musique qu'ils écoutent en général. Alors, est-ce que c'est ton cas?
Alors, faut savoir que moi, j'écoute vraiment beaucoup de trucs très très différents. J'ai eu la preuve il y a pas longtemps parce que Spotify avait fait un truc genre les musiques que t'écoutes plus écoutées en 2018. Et tu passes du rap au métal, au rock, à l'électro, genre Carpenter Brut. Et puis, je fais tous les styles, même musique française, donc vraiment des trucs ultra variés. Ça va, moi je navigue un peu entre tout, genre par exemple je m'inspire beaucoup, je pense que ma plus grosse influence ça doit être Nobuo Uematsu et Yoko Shimomura, vu que c'est les deux compositeurs que j'ai le plus écouté quand j'étais petit, enfin plus jeune en tout cas, et après je m'inspire beaucoup, genre par exemple en ce moment j'ai beaucoup limé la soundtrack de Into the Breach, ce qui fait que ça s'entend beaucoup dans mes musiques en ce moment, et j'essaie de faire attention de pas trop recalquer là-dessus, mais je m'inspire pas mal et je fais... Comme je fais beaucoup de styles ultra différents en termes de musique, bah du coup, j'écoute forcément plein de trucs pour essayer de trouver des idées, des inspirations, tout ça. Mais de manière générale, ouais, j'écoute. Enfin, je fais à peu près le même style, mais il y a des éléments qui se retrouvent dans toutes les musiques que j'écoute, quoi.
Très bien. Et du coup, est-ce que tu as un process particulier de création quand tu es sur un nouveau projet? Et est-ce que, par exemple, pour la musique qu'on vient d'écouter, comment ça s'est passé pour la créer?
Alors, un process de création, ça dépend beaucoup de quand est-ce que j'arrive sur une création de jeu, si j'arrive au tout début ou pas. Généralement, ce que je fais, c'est que d'abord, je discute un peu des intentions des personnes qui sont impliquées dans le projet. Par exemple, quelles émotions ils ont envie de faire ressentir aux joueurs, qu'on contextualise un peu et qu'on soit d'accord sur les intentions de base. Ensuite, j'essaie de me contextualiser un peu le style que j'ai envie de faire, avec par exemple quelques références, sans essayer de trop être influencé par les références de base. Puis après, je me mets devant le clavier et ça sort tout seul. j'ai pas de là-dessus, c'est un truc, c'est un peu mon super pouvoir, c'est que je manque pas d'inspi parce que quand je me mets devant le clavier, ça sort tout seul. Et par exemple, pour Cyberpunk, ma seule analyse, ça a été de dire ok, musicalement, sur le trailer de Cyberpunk, on entend ce style-là. Qu'est-ce qui rejoint ce style-là? Bah, ça va être des groupes comme Combi Christ, des trucs comme ça, à faire un peu d'analyse, tout ça, tout ça. Puis après, dire ok, en analysant, j'ai tout ça comme éléments qui reviennent et quels sont les éléments vraiment récurrents, par exemple le rythme. Vu que le rythme est un peu similaire, bah, on va aller là-dessus. Quels instruments reviennent? Bah, il va y avoir de la guitare, il va y avoir du synthé un peu vénère, tout ça. Et puis après, on commence à modeler le truc, puis voilà.
Très bien, je vois que tu as cité Combi Christ et le Didgeridoo, donc autant dire que je suis ravie. j'ai vu aussi sur ton site que tu avais travaillé sur pas mal de projets en VR. Est-ce que tu abordes du coup la création de ce genre de musique différent, puisque c'est un média un peu différent?
Pas forcément, c'est juste qu'après, par exemple, on va beaucoup plus utiliser de la musique, je vais utiliser un grand mot, diégétique, qui est en gros le fait d'utiliser de la musique dans un contexte, c'est-à-dire que par exemple, de la musique va être intégrée, par exemple, si tu as une radio, la musique va sortir de la radio, au lieu d'avoir une musique juste ambiante en 2D et que tu entends tout le temps. Et en général, dans les jeux en VR, on essaye de ne pas avoir trop de musique, à part cas particulier d'une narration voulue qui va mettre de la musique en 2D tout le temps. Mais en général, on essaie d'avoir une expérience assez fluide. On va plus mettre en avant le sound design que la musique. Et les moments où il y a de la musique, du coup, seront beaucoup plus importants parce que ça sera des moments clés, en fait.
D'accord. C'est assez intéressant parce que justement, dans la masterclass dont tu as parlé, Adrien, avec Olivier de Rivière, il parle justement de tout un jeu qu'il a fait en VR. Toute la musique en fait est fait passe par le sound design puisque par exemple c'est en s'approchant d'une lampe que par exemple tu vas avoir la ligne de basse qui s'augmente.
Oui.
Alors j'ai oublié le nom, on vous le mettra dans les liens.
Get Next, je crois.
De quoi?
Non, c'est Get Even.
Get Even.
Get Even. Oui, voilà.
Get Even, ouais. Le jeu qu'il a dit que ça lui a pris c'est l'équivalent de 6 mois, 1 an de travail pour un truc qui est beaucoup trop en avance sur son temps et que c'est très très chiant à faire. Non, mais effectivement, c'était un jeu intéressant parce que ça mélangeait vraiment le sound design et la musique et on était vraiment à la frontière entre les deux. C'est une expérience intéressante. Après, c'est un peu complexe et je suis pas sûr que c'était très 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 j'allais dire worse, mais ça apportait vraiment beaucoup de valeur. C'est très stylé. Moi, je trouve ça techniquement, je trouve ça ultra impressionnant. Maintenant, j'ai pas fait le jeu, donc je sais pas si c'est vraiment ultra impressionnant quand il joue, mais voilà.
C'est un peu comme la VR, quoi.
La VR, je trouve que ça apporte plus.
Ouais, c'est trop stylé, mais bon.
Ouais, ça, je pense que ça coûte moins. Enfin, tu vois, ça coûte moins. Il y a plein de développements à faire pour de la VR, mais de loin, j'ai l'impression que c'est de notre niveau d'investissement de se dire, ok, je vais faire un truc qui sort vraiment des sentiers battus.
Ah bah, ça prend du temps, et quand ça prend du temps, bah, ça coûte de l'argent, et du coup, il faut avoir l'argent à investir là-dedans pour se dire, on va faire un truc qui va peut-être révolutionnaire, mais qui va peut-être pas non plus changer la phase du. Enfin,
peut-être que les gens se rendent compte que c'est révolutionnaire dans 5 ou 10 ans.
Voilà, c'est ça, et du coup.
Très bien. Alors du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui se lancent dans des challenges de type Linktober, où tu dois faire un dessin par mois, ou alors de faire par exemple, du speed painting, donc se dire, je fais un dessin en une heure. Est-ce que toi, tu fais un peu l'équivalent pour la musique?
Bah, en fait, j'avais créé il y a 2 ans, un truc comme ça, un truc qui s'appelle le Musictober. Le principe, c'est qu'en gros, je reprenais la liste de Linktober avec tous les mots, et j'essayais de faire une musique par jour en suivant le truc. La première année, j'avais pas réussi, parce que c'était très fatigant, je faisais en même temps des game jams, j'en avais 3 dans le même mois, donc j'étais complètement mort. Parce que du coup, je faisais des musiques pour mes game jams, plus en plus, je faisais des musiques pour les challenges, et du coup, j'étais en mode, je faisais au moins 3-4 musiques par jour, quoi, donc j'étais en mode, je vais mourir. Et cette année, j'avais commencé à créer Linktober, enfin le Soundtober, où en gros, le principe, c'était de faire un petit élément de sound design par jour, en reprenant les éléments. Par exemple, je crois qu'il y avait un truc genre la pluie ou je sais plus quoi, puis j'avais fait une ambiance de pluie d'un mec qui se balade sous la pluie avec une vie tout autour et du coup j'avais essayé de créer ça. Bon, je suis pas allé jusqu'au bout parce que toujours pareil, le temps est un problème, mais c'était cool.
Je sais qu'il y a
PV Nova qui avait fait ça.
Oui
c'est vrai, je pensais aussi à The Algorithm qui fait souvent des lives sur Twitch où il compose une musique.
Il a arrêté malheureusement. À l'époque il faisait effectivement beaucoup de lives sur Twitch sur composition, un morceau de post-rock en 2 heures.
Mais d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai sorti mon Musictober avant PV Nova, donc j'étais là avant lui. Voilà, c'est tout. Et aussi, petit truc, aussi, j'avais aussi fait un petit truc un peu challenge comme ça, où je fais, ça s'appelle Speed Music. En gros, j'ai une sorte de générateur de mots, genre j'ai un style de jeu et un univers, et je peux faire une musique qui correspond aux deux. Donc par exemple, si j'ai sport, école, bah, va falloir que je me casse la tête pour essayer de trouver un musique qui correspondrait à un univers école avec du sport.
Très bien, mais en plus je pense que c'est des bons challenges pour déjà s'entraîner à aller plus vite, à essayer de générer plus facilement des idées, et puis aussi mieux maîtriser son matériel. Enfin, des choses qui ne doivent plus te faire peur maintenant.
C'est ça, puis en pratiquant, c'est en pratiquant que tu apprends vachement, et du coup, si tu apprends à bosser vite, quand tu auras du temps pour le faire, tu seras d'autant plus efficace parce que tu auras appris à bosser dans des conditions ultra speed, quoi.
Du coup, si tu devais faire la musique d'un jeu, ce serait lequel ?
Ça, c'est, à chaque fois, c'est la colle de ouf, parce que j'ai énormément de mal à me projeter, parce que déjà, je peux pas me projeter sur des licences que je connais ou que j'adore, parce que je vais forcément me comparer, c'est pas bon. Par exemple, je pourrais pas bosser sur un Final Fantasy ou un Kingdom Hearts, parce que j'ai trop en tête ce qui est passé avant, donc du coup, je vais forcément être influencé. Je pense que ce que je préférerais, ce qui me ferait bien envie, ce serait de bosser sur un jeu Quantic Dream, parce que c'est pas trop marqué. Du coup, je peux me permettre de proposer des trucs beaucoup plus intéressants et qui ne seront pas marqués par un compositeur spécifique, ou alors un jeu Dontnod, par exemple, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de créativité et d'exploiter quelque chose là où il n'y a pas déjà quelqu'un qui est passé avant, quoi.
Très bien. Eh bien, du coup, ce sera bon pour mes questions.
Ouais, moi, j'ai une petite question, un peu pareil. Est-ce qu'il y a, pour revenir un peu aux différents types et quel type de jeu tu as fait, est-ce qu'il y a des types de jeux que tu as trouvé plus difficiles à sonoriser ou à faire la musique pour un type de jeu, ou au contraire, est-ce qu'il y a des types de jeux où tu t'es dit, tiens, là, c'est simple, j'y arrive plus facilement, moi, ou...
En fait, de base, j'ai vachement de facilité avec le RPG japonais, parce que j'en ai beaucoup joué. Du coup, les premières musiques que j'ai composées, ça ressemblait toujours à du RPG japonais, ce qui était assez, assez symptomatique. Maintenant, il y a des trucs que j'arrive plus ou moins facilement à faire, par exemple l'orchestral, l'électro, tout ça, et du coup, en fonction de l'univers, ça peut plus ou moins coller. Le truc que j'ai le plus de mal en général, c'est le jazz, parce que c'est un truc que je commence à comprendre doucement, mais c'est très complexe, et c'est très très complexe le jazz musicalement. Et sinon, un truc qui est aussi pas facile, c'est par exemple des jeux qui vont avoir de la musique interactive avec des situations qui varient tout le temps. Par exemple, j'ai bossé sur un jeu qui s'appelle Nekuya, où c'est un jeu de plateforme où la musique suit le joueur, mais vu que c'est un jeu qui tente au speedrun, du coup, tu vas avoir des moments où tu vas accélérer d'un coup, t'arrêter, t'accélérer d'un coup, t'arrêter, et du coup... Faire s'adapter la musique en fonction des actions du joueur, c'est super complexe, parce que du coup, il faut dire, ok, dans toutes les situations, il faut que ta musique, elle marche et qu'elle s'arrête au bon moment et qu'elle comprenne toutes les situations. Du coup, j'ai dû me creuser la tête pour les transitions, pour réfléchir comment mon truc allait marcher, dans quel cas il s'active, dans quel cas il s'active pas. Enfin, voilà, c'était le plus complexe, je pense, que j'ai fait jusque-là, et ça m'a pris bien, bien du temps, quoi.
Donc, merci pour cette interview. On va passer maintenant aux questions entre nous. Petite question entre amis.
Alors, première question de ma part. Donc, tout à l'heure, on a parlé des vieux jeux CD, enfin des vieux jeux sur CD où le jeu prenait très peu de place et donc le reste du CD était utilisé par la musique. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir écouter les musiques des jeux en dehors de jeu. Peut-être parce que je suis un petit peu plus vieux. Mais ou en tout cas, c'est vraiment le moment où moi, je n'avais jamais pu écouter de la musique de jeu avant. Et donc, je me demandais si vous, est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué de vos premières, enfin, les premières écoutes, on va dire, que ce soit sur ce type de jeu ou sur d'autres trucs, ou peut-être vous aviez enregistré d'une manière ou d'une autre, aller choper les fichiers. Je me souviens avoir fait ça aussi dans certains jeux.
J'ai le souvenir, effectivement, d'un jeu où on sautait la piste 1, mais j'ai plus aucun souvenir de ce que c'était. Ouais. Moi, j'avais la BO qui était fournie avec, et c'était assez rare à l'époque, de Killer Instinct sur Nintendo 64, je crois. Et c'était effectivement, j'ai dû l'écouter en boucle, j'ai dû poncer le CD, ouais. Comme c'était pas permis, quoi.
Moi, mon cas, c'est MechWarrior 2. La BO est vraiment pas top, je pense, avec le recul. Mais à l'époque, le jeu, il était cool, il me plaisait bien. Et c'était un jeu, comme ça, on pouvait l'écouter. Et donc, je pense que j'ai ruiné le CD.
C'était sur quel écoutant. C'était un PlayStation ou PC?
C'est PC.
PC.
J'ai jamais dit que la BO de Killer Instinct était bien.
Ouais, hein. Non, mais voilà.
Honnêtement, j'avais lu ta question, parce que contrairement à ce que tout le monde dit, je prépare. Et j'ai comme Adrien souvenir d'avoir fait ça, mais ça date d'il y a tellement longtemps que je sais pas trop. Donc, je pense que ça devait être plutôt dans les premiers jeux de PlayStation que j'ai eu, ouais. Où je dirais peut-être sur Wild Arms, d'accord. Qui avait une intro qui était assez chouette.
Très chouette et l'intro,
je
ouais.
Je pense que peut-être celui-là en premier, quoi.
Okay.
Moi j'ai un souvenir, mais après... Moi, je faisais pas trop ça. Moi, j'avoue que j'étais très, très vanilla. C'est-à-dire que moi, quand je voulais écouter de la musique, je jouais au jeu et je restais dans la zone et je traînais, je me baladais. Et le moment où j'ai commencé vraiment à écouter de la musique à part, c'est le moment où les MP3 ont commencé à débarquer, que j'avais Internet et du coup, j'étais là. Mon Dieu, on peut écouter de la musique sans jouer au jeu. Et du coup, j'ai commencé à télécharger des OST, des OST, des OST. Même d'animés, genre Dragon Ball. J'ai téléchargé tous les OST et je les écoutais en boucle, en boucle, en boucle.
Je pense qu'on a tous un peu fait ça à partir de l'avènement d'Internet.
Le MP3 1 giga qui était en forme de clé USB que tu branchais, clac, t'étais en mode J'ai quand même le king, quoi.
Un giga, t'es gentil. Je me souviens des 128 mégas et t'étais là, oh.
C'est comme les disquettes, hein, à ce niveau-là.
Qui faisait radio aussi, ça c'était ouais. Top. Parce que bon,
c'est chaud.
Ah ouais, ouais.
Okay, voilà. Ceci dit, de plus en plus, ça va devenir important d'être dans le jeu pour entendre la musique, vu qu'elle va être de plus en plus dynamique, et s'intégrer dans le jeu. Mais maintenant, les BO qui sortent, c'est des versions arrangées spécialement pour CD de la musique dynamique, quoi. C'est plus vraiment un morceau en lui-même, quoi.
Bah, en fait, ça dépend des compositeurs, parce que par exemple, je sais que Nobuo Uematsu, sa grosse puissance, c'est que tu peux écouter la musique hors jeu et en jeu, et ça marche très bien en fait l'un dans l'autre. Et t'as des compositeurs comme ça, je pense au compositeur de Transistor, Darren Korb, si je dis pas de bêtises, ouais. Qui lui fait des musiques qui marchent dans le jeu, tu l'écoutes à part, c'est trop bien. Ouais. Et t'as des compositeurs comme ça où ça marche super bien, d'autres non, mais du coup, c'est intéressant, quoi.
Ouais, et... après, il y a le problème technique, effectivement, que si la... Tu vois, si c'est une seule rythmique, un seul machin avec des éléments qui rentrent et qui sortent, quelle version tu mets sur le CD pour écouter ? T'es obligé d'avoir... Ouais, voilà, ouais. Soit tu mets toute la combinatoire, alors t'as...
je pense qu'en fait, de base, quand tu composes ta musique, t'as déjà une version de base qui va être linéaire.
Ouais, c'est la version
et
standard.
Et voilà, t'as la version standard et après,
après tu la découpes.
Tu fais ta déclinaison ouais, et voilà, quoi.
Après, tu peux avoir des cas particuliers. Enfin, je pensais... Alors, c'est pas pour être corpo, mais il y a un jeu Ubi qui est sorti, qui s'appelle Odd, où en fait, tu déplaces une espèce de petite boule dans un espèce d'univers marin, et à chaque fois que tu touches un élément, il y a un son qui va être produit, et ils ont fait en sorte que tout s'arrange bien, ce qui fait que quand tu te déplaces, c'est une musique qui est générée, mais qui, en gros, rend toujours bien. Mmh. Et donc, là, elle est vraiment très, très interactive. Enfin, je sais pas comment ils ont fait. Donc, j'imagine que tu peux toujours faire une version statique, mais ce sera jamais similaire avec l'expérience de jeu que tu as, qui est juste tu te déplaces et tu crées du son, quoi.
De toute façon, c'est toujours pareil. Par exemple, si on prend les soundtracks d'Undertale, si tu joues au jeu, t'auras pas la même expérience que si tu écoutes juste la musique comme ça. Alors que pourtant, les musiques sont bien, même en dehors du jeu. Mais t'auras forcément cette appréhension en dehors du jeu et dans le jeu, en fait. Mais je pense qu'il y a quand même des... Bon, après, il y a des soundtracks qui vont plus ou moins marcher. Par exemple, Hyper Light Drifter, je trouve que ça marche vachement moins bien quand t'es en dehors du jeu que dans le jeu, en fait. Et d'autres qui vont marcher plus ou moins, qui vont marcher mieux, quoi.
On peut passer à la deuxième question. J'avais noté le jeu qui vous a plus marqué... Ah merde, tu voulais dire...
C'est pour répondre en premier avant que les autres le disent.
Le jeu qui vous a plus marqué dans l'utilisation de la musique à l'intérieur du gameplay. Donc une utilisation interactive, on va dire, de la musique.
Cool, comme ça je peux dire Crypt of the Necrodancer avant que quelqu'un d'autre le dise. Alors, c'est vrai qu'en vrai, j'ai pas tant de temps joué que ça à ce jeu. Parce que déjà, je crois que c'était un peu dur. Et par contre, c'est vrai que c'est impressionnant. Ça a quand même pas mal fait parler quand il est sorti, parce que c'est vraiment bien intégré. En plus, c'était vraiment des choses, un jeu de rythme, un dungeon crawler. C'est pas des choses qui avaient été mélangées avant. Donc le jeu en lui-même était assez incroyable, assez différent. Et la BO était vraiment cool. En plus, il y avait pas mal de. Il y avait la BO de base, plus d'autres versions. Il y a une version métal, une version chiptune, machin. Et ce jeu, ouais, je l'ai trouvé assez incroyable. Spécialement quand on s'approche du marchand.
Ah, c'est ça, moi je sais que j'ai jamais joué au jeu, mais j'ai énormément écouté les musiques, et à chaque fois juste de découvrir en fait que t'as la version avec le marchand, la version sans, et en fait les deux sont bien, et du coup selon ton humeur tu vas écouter l'une ou l'autre, mais les deux sont bien, et quand tu t'es lassé d'une tu vas écouter l'autre, et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, et ça aurait été aussi ma réponse.
Moi je vais dire FF15, parce que Yoko Shimomura, et parce que je suis connant bluffé par le travail de l'audio programmeur qui s'est quand même fait suer à créer un engine de A à Z juste pour un jeu. Je suis en mode, tu as beaucoup de temps et tu es très patient, parce que vraiment
c'est pour ça que les jeux mettent très longtemps à développer,
c'est
là.
Ça, il y a des gens qui se disent si je crée un engine audio juste pour ce jeu avec tout un système de musique interactive comme Waze, sauf que c'est pas Waze, du coup on paye pas de droits, et du coup ça marche bien.
Moi je pensais, bon c'est pas vraiment dans l'utilisation, mais Rocksmith, donc pas Rock Band, pas Guitar Hero, Rocksmith, donc celui où tu branchais vraiment une vraie guitare, ouais. Et tu jouais vraiment de la vraie guitare et t'apprenais entre guillemets à jouer. Moi étant guitariste, c'était les rêves pour moi, ça combinait le jeu vidéo et la guitare, c'était trop cool, ça me permettait d'être sûr de mettre une pâtée à la plupart de mes potes. Et non, techniquement je trouvais ça super impressionnant qu'ils arrivent à reconnaître exactement là où tu jouais. Je me souviens d'un jeu avec des accords et je mettais un doigt en trop et ils se rendaient compte que j'avais un doigt en trop sur une des cordes, et je trouvais ça vraiment bluffant techniquement.
D'ailleurs Rocksmith qui utilise Waze pour ça.
Ah
voilà, vous le saurez, c'est très con. Alors j'aimerais bien jeter un coup d'œil au projet Waze, parce que ça doit être un sacré bordel, mais s'ils utilisent Waze. Et je vais juste rajouter une petite note pour un jeu que j'ai beaucoup aimé à la Ludum Dare, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Eternal Home Floristry, qui est fait par Deconstructim, qui est le studio qui avait fait The Red Strings Club et God Will Be Watching, et la compositrice Fingerspit, qui a fait un travail de ouf, où le sound design, c'est de la musique. Et du coup, quand tu fais des actions, ça fait des notes, et c'est très joli. Ah, et il y a de la musique interactive en plus.
Et avant de passer à la question suivante, un des trucs qui m'avait plus marqué en utilisation de la musique dans le jeu vidéo, ça remonte à Monkey Island 3, qui, je ne sais pas si vous l'y avez joué ou si vous... Il y a une énigme, en fait, qui est basée sur une chanson. C'est-à-dire que tu as un équipage de pirates qui, en fait, ne font que chanter. Et ils ne s'occupent absolument pas du bateau. Et tu veux les mettre au travail. Et donc, il y a tout un truc où ils chantent un couplet. Et toi, tu dois trouver une phrase à un moment dans le couplet. Ils te laissent une phrase. Et il faut trouver une phrase pour laquelle ils ne vont pas arriver à faire de rime. Parce que du moment qu'ils arrivent à faire une rime, ben, ils repartent sur leur chanson et ils continuent leur chanson. Et donc, en fait, il y a toute une chanson qui a été écrite qui s'appelle A Pirate I Was Meant to Be. Et que vous pouvez trouver, je pense, sur YouTube très facilement, et qui est assez rigolo, c'est une chanson de pirate, et voilà, et je vous dis pas la fin, mais voilà, il y a un moment où on arrive à se sortir de la chanson, et c'est très rigolo. Et il y avait un autre passage dans le même jeu, qui, une bataille de banjo, qui est assez rigolote et assez marquante aussi sur un peu l'utilisation voilà, d'une musique dans une énigme, en fait.
D'ailleurs, il y a une anecdote assez rigolote sur Monkey Island, parce qu'il y avait le compositeur qui avait bossé sur les Monkey Island, qui avait fait une conférence à la GDC, qui était vachement cool, où il expliquait comment ils avaient fait la musique à l'époque, etc. Et ils avaient expliqué qu'à l'époque, il y avait Pro Tools, sauf qu'il coûtait 3 000 $, du coup, personne ne pouvait se le payer. Et du coup, ils ont fait un partenariat avec une société qui a après créé MaxMSP, et qui du coup avait créé un système de musique interactive qui utilisait un engine propre pour les jeux Lucas, tout ça.
C'est iMuse.
Ouais, un truc comme ça. Si ça vous intéresse, vous tapez GDC Monkey Island, je pense que vous allez le trouver assez facilement.
En même temps, c'est un peu tout maison là-bas.
Enfin, ouais. C'était une époque où c'était plus facile de faire.
De créer un engine que d'acheter une licence à 3 000 balles. Quoi.
Ok. La BO de jeu que vous avez le plus écouté, bon, y en a déjà qui l'ont dit, je pense, pas mal, mais on peut quand même faire un petit tour de table.
Alors, moi, je dirais que c'est la musique de Deus Ex Human Revolution de Michael Maiken. Que j'ai vraiment écouté énormément alors que j'ai jamais joué au jeu, mais pourtant je suis fascinée par cette musique, donc et j'ai pas dit Hollow Knight, mais mais j'aurais pu quand même.
Voilà, celle que honnêtement j'ai vraiment eu beaucoup de mal à répondre à ça, parce que la celle que j'ai le plus écoutée, je suis un peu comme tout le monde, on en écoute depuis très longtemps, donc je pense que c'est plutôt des musiques des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais gamin, peut-être Donkey Kong Country ou Secret of Mana ou peut-être FF7. Ouais. Probablement ce genre de truc Super NES ou PlayStation, quoi.
Moi, instinctivement, je dirais FF9, parce que c'est le jeu que j'ai le plus limé et que j'arrive à me rappeler des lieux juste à la musique. Et d'ailleurs, j'ai eu un syndrome il n'y a pas longtemps où il y a une flûte dans une des musiques que j'ai reconnue dans la musique de Deltarune. Donc j'ai vraiment des problèmes avec ce jeu. Mais sinon, ouais, j'aurais dit ça. Ou Kingdom Hearts 1 et 2, parce que je les mets ensemble, parce que pour moi, c'est très proche et qu'il y a des musiques trop bien dans ce truc. Et voilà.
Oui, d'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, le projet, je retrouverai le nom, qui rend hommage à toute musique de Kingdom Hearts en les reprenant avec des orchestres symphoniques. Je pense que Jade retrouvera ça dans 2 minutes. Et ma réponse, moi, ça va être Faster Than Light.
C'est ma
musique quand je ne sais pas quoi écouter. Hop, Faster Than Light, hop là, c'est parti.
C'est une très bonne musique pour bosser.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, moi je la mets très souvent au taf.
Souvent, les musiques de jeu, qui sont donc des musiques ambiantes, faites pour être agréables en boucle, ainsi de suite, c'est des très bonnes musiques pour bosser sans...
Surtout que Faster Than Light, c'est un gameplay assez calme en général, donc du coup, tu peux le mettre en fond, et c'est pareil pour Into the Breach ou The Red Swing Club, où c'est des musiques assez posées, du coup, tu peux vraiment l'écouter tranquillement, quoi.
Du coup, c'est Project Destati.
Ah, Project Destati, voilà.
Qui reprend des musiques.
Et moi, une des BO que j'ai beaucoup, beaucoup écoutée, mais alors, elle ressemble pas du tout à des BO classiques, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus sur l'idée d'une BO de film avec des chansons prises dans des groupes actuels. C'était la bande originale de Vampires the Masquerade Bloodlines, qui était une petite compile de rock un peu underground, machin, très, et qui est très sympa, en fait.
Ça me fait vachement penser à ceux qui disent Tony Hawk Pro Skater 3, par exemple, ouais, pour les BO, et où t'as plein de musiques melting pot, mais qui font bien le mood, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi. En fait, il y a une sélection qui a été faite pour avoir tout un tas de chansons, machin, et tu peux aller... moi, je me souviens avoir été piquer les fichiers au fin fond du jeu, peut-être les convertir depuis du OGG vers du MP3 pour pouvoir l'écouter.
Pour avoir ton petit Motorhead.
Non, pas dans celui-là. Non, c'est des trucs vraiment underground et pas. Enfin, tu vois, c'est du Darling Violetta. Sinon, il y a Lacuna Coil. Il y a Lacuna Coil dedans, quand même. C'est pas mal. Mais c'était des trucs, voilà, pas trop célèbres non plus. Alors, maintenant, un jeu avec une BO tellement mauvaise que elle vous a marqué.
Et c'est difficile parce que moi, je me suis dit, en fait, les BO qui sont pas bien, c'est juste qu'elles te marquent pas, tu vois.
Ouais, tu joues
mais
sans
des,
son,
des jeux avec des BO tellement...
J'en ai plein, moi.
Ah ouais,
j'en
ai plein. Vas-y.
Mais en fait, j'avais... c'est en tête une avant-première, mais j'avais prévu de faire un format sur les pires musiques de jeu parce qu'il y a vraiment des trucs.
En fait, tu peux en garder quelques-unes pour toi.
Mais je vais en citer deux parce que c'était très marquant. J'ai vraiment beaucoup rigolé en écoutant ça. C'est bon. Le premier, c'est celui qui me vient le plus à l'esprit, c'est la musique de Dragon Ball Adventure sur NES parce que c'est une boucle très courte. Ça fait ta na 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 ta 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 na 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 ta 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 na na na. Et c'est ça pendant tout le jeu, c'est-à-dire que la musique ne change pas de tous les niveaux. Donc t'entends ça tout le temps, et t'as une boucle très courte avec juste une petite variation sur un segment. Et ça, c'est un enfer. Et un truc qui m'avait grave surpris, c'était sur Resident Evil 1, il y a une musique, en fait, il n'est pas dans le jeu, mais c'est la musique qui a servi de référence pour la musique du manoir. Hein, et ça a été fait par, le game designer ou le game producer. Ouais. Et c'est terrible. Je crois que vous pouvez la retrouver. Je crois que c'est Director's Cut. Enfin, c'est genre Resident Evil Director's Cut OST. Et je crois que c'est le manoir ou un truc comme ça. Et c'est pas de la musique. C'est juste incompréhensible. Et tu te dis, mais le compositeur, il est passé de ça à la musique. T'es en mode... Mais c'est un magicien, en fait, genre, magicien du possible, quoi, à ce niveau-là. Ouais. C'est terrible, quoi.
Moi, il y en a une qui m'a marqué. C'est la... Mais alors, c'est plus vieux, mais c'est probablement dans les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué un peu, ainsi de suite. C'est... ils avaient sorti une version Noël des Lemmings sur... Oh, putain, on y joue, c'est un pote, je crois qu'on y joue sur un vieux Mac, un Apple, je sais pas quoi. Enfin, bref. Non, un Macintosh, déjà. Mais bref, c'était très vieux et c'était des chants de Noël en version dégueulasse avec des boucles très, très courtes. Et c'était horrible, quoi. C'est le truc, on coupait le son pour y jouer, parce qu'en fait, même à l'époque, ça nous saoulait très vite.
Tu mettais un Keygen à côté pour avoir mis un truc moins pire, quoi.
Mais attends, là, je parle d'un temps où je savais même pas ce que c'était qu'un Keygen.
D'ailleurs, du coup, j'ai retrouvé le nom en cherchant un petit peu. Du coup, c'est Resident Evil Director's Cut Mansion Basement. Voilà. Et vous tapez ça, et vous me retirez des nouvelles.
Je te remercie parce qu'après, quand on fait les liens, c'est toujours pénible à retrouver.
Il n'y a pas de souci.
Ce sera facile.
Je suis professionnel.
Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Les seuls jeux, je pense que c'est surtout des mauvais sound design plus que des mauvaises musiques, souvent qui vont me faire couper le truc. Mais je n'ai pas de truc en tête à part ce qu'on va avoir dans le joueur du grenier où il va souvent mettre l'accent dessus. D'ailleurs, je pense que le Dragon Ball était dedans.
Oui, il est dedans.
Je crois qu'il y avait les Tortues Ninja aussi où la même musique revenait en boucle et tout. Mais je n'ai pas de truc particulier de mon expérience.
Je vais juste en rajouter deux pour le sound design, du coup, parce que c'est très rigolo. Tortue Ninja sur NES avait un horrible son de quand t'as plus de vie, où ça fait... Tant que t'as plus de vie, t'as ça pendant donc tu pètes un câble. Et je rajouterai un son, moi, qui m'avait trigger, parce que j'avais regardé et là, on va revenir sur Hollow Knight. C'est qu'il y a un son qui est infâme, où t'as un monstre qui fait un bruit un peu des... Et, c'est, et quand t'en as 10, qui tourne autour de toi, t'es en mode... J'ai envie de mourir, c'est horrible.
Tu sais que si tu critiques le Night, tu vas être coupé au montage. Enfin,
c'est pas grave. C'est... Pas tout, ça fera donc 20 minutes.
C'est pas grave, je mettrai mon gilet jaune, il n'y a pas de souci.
Question encore plus difficile, on va dans les questions de plus en plus dures. Si tu ne peux garder qu'une seule musique de jeu vidéo, tout le reste disparaît, détruit, explose.
Alors, on
tu
parle d'une OST ou on parle d'une seule musique?
D'une seule piste. Genre, t'as 6 minutes max, tu vois, parce que...
Ok, moi je sais.
Ah ben vas-y.
Je vais dire Ibsen Heritage de Final Fantasy IX parce que j'ai pas dit. J'ai un problème avec ce jeu.
C'est normal.
Mais parce que je pense que c'est la musique qui m'a donné envie de commencer la musique à être compositeur. C'est celle que j'ai le plus écoutée. D'ailleurs, si un jour. Square Enix, si vous m'écoutez, faites un remake de FF9 et je veux une réorchestration de ce morceau parce qu'il est incroyable.
C'est dans quelle situation ce morceau?
C'est en fait.
Ça me dit rien donc.
En fait, c'est dans. Alors c'est très loin, c'est dans le CD3, CD4. Donc. À une époque, on avait 4 CD pour un jeu. Et en gros, à un moment, t'as un château où, en fait, quand tu rentres dedans, ton niveau est inversé. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que t'aies les armes les plus faibles pour faire des dégâts. Du coup, il fallait garder tes armes du début pour défoncer les monstres. Et ça, c'était vachement intelligent à l'époque. Et en fait, t'as une musique qui est une reprise du thème principal, mais de façon très grandiloquente. Et en fait, t'as une sorte de château en fait, où ça monte. Et puis ensuite, t'as un point de rupture et le château repart, mais dans l'autre sens, en fait, en mode symétrique. Et moi, la scène m'avait vachement marqué. J'étais en mode, wesh, genre le château, il part dans tous les sens et tout. C'était ultra impressionnant pour l'époque. Et moi, je me souviens que la musique m'avait vachement marqué. Alors, c'est juste une reprise d'un thème, du thème principal, mais l'orchestration m'avait vachement marqué.
Moi, je vais répondre Libéré Fatali de Final Fantasy VIII, qui est la musique de la scène d'intro. C'est la première fois que j'ai fait « Oh, mais en fait, les jeux vidéo, c'est de l'art. C'est incroyable. » Et je devais avoir genre 10 ans, j'en sais rien. J'étais embarqué directement et c'est une des rares musiques que je peux écouter toute seule. Comme ça, juste ce morceau-là de Final Fantasy me suffit à ma journée. Quoi.
J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que maintenant que t'en parles, elle marche très très bien, celle-là.
Avec les chœurs.
Ouais, puis il y a
elle te prend, quoi. C'est
ça, elle t'attrape.
Dans le même genre d'intro, il y a aussi l'intro de Grandia qui est une claque monumentale quand tu pars de... Enfin, comme c'était un des jeux qui est sorti sur PlayStation 1 et qui avait la première orchestration, le thème, il est ultra entraînant. Et je pense que beaucoup de gens, si vous écoutez l'intro de Grandia, vous allez péter un câble, quoi.
Moi, ma réponse, ça serait Baba Yetu de Civilization 4.
Un grand classique, ah ouais, effectivement.
C'est vrai que la musique de Civilization... Ouais. On en a pas trop parlé pour l'instant, mais... Ok, est-ce que vous avez une reprise à conseiller une reprise de musique de jeu, une réorchestration, un truc comme ça, des trucs qui sont sortis un petit peu du coup du cadre du jeu vidéo.
Parce que j'avais une orchestration, j'allais dire Pokémon Let's Go, mais parce que la, pour le coup la réorchestration est insane, mais sinon, alors ça va pas être une musique reprise particulièrement, mais il y a pas mal de musiques de Street Fighter 3, Third Strike, qui sont reprises de façon un peu chill jazz et qui marchent trop bien. Et moi, c'est ce que j'écoute des fois quand je bosse en mode... Voilà. Et typiquement, si vous voulez en découvrir, il y a un site qui s'appelle Saltibet où il y a des personnages qui s'affrontent et il y a des musiques qui passent en boucle. Et moi, à chaque fois, je suis obligé de faire point d'exclamation musique pour savoir ce que c'est. Et du coup, ça propose une playlist qui se remplit au fur et à mesure et c'est une spirale infinie parce qu'ils ont des stocks de musique de, genre, je sais pas, 20 000 musiques et du coup... J'ai une playlist qui commence à se remplir et je fais putain, elle fait déjà plus de 200 musiques.
Moi, ça tombe bien parce que ça va me permettre de caser ce que je voulais caser dans une autre question. Il y a Super Smash Bros. Ultimate. Il y a 800 musiques dedans. Il y a plein de nouveaux arrangements de tous les jeux, toutes les licences qui sont dans Super Smash Bros. Donc, il y a vraiment de tout. Il y en a plein qui ont été refaits par. Enfin, des arrangements qui ont été refaits par des compositeurs qui étaient. Enfin, les originaux. Il y a des trucs qui ont été un peu nouveaux. Enfin, il y en a plein.
Moi, je vais conseiller c'est un groupe, je pense, qui s'appelle Legacy Sessions. Je ne sais pas si vous connaissez, qui ont fait des reprises de plein de vieux jeux. En particulier, moi, une qui me parle beaucoup, c'est un medley Monkey Island, avec deux thèmes de Monkey Island et Grim Fandango, je crois, que je conseille vraiment. C'est en acoustique, machin, très chill, vraiment très, très sympa. En plus, ça s'adapte bien à ces musiques-là, quoi.
Alors, moi, c'est plutôt une chaîne YouTube qui s'avait très dur à prononcer, mais c'est Harry101 UK. Et en fait, il reprend des musiques, mais à chaque fois comme si c'était dans l'univers de Portal. Donc par exemple, vous connaissez sûrement la musique This is Halloween, qui est du film...
L'étrange Noël de Monsieur Jack.
Voilà, merci. Et du coup, il l'a repris en disant, c'est voici Aperture. Et du coup, on a tous les petits robots qui chantent This is Aperture. Bon, je vais pas chanter parce que je chante très mal. Et voilà, et il a repris énormément de chansons. Donc c'est pas forcément des reprises des musiques de jeux, mais c'est des reprises de musiques connues dans l'univers d'un jeu. Et c'est assez rigolo à voir. En plus, il y a tout un clip qui est avec. Donc, ça fait tout un lore, en fait, du jeu qui est assez, assez cool.
Et du coup, moi, je vais ressortir Project Destatic qui reprend les musiques de Kingdom Hearts, mais qui les magnifie. Enfin, il y a des choses vraiment très belles. Et pareil, tu peux écouter ça en travaillant. Ça marche très, très bien.
Du coup, je vais reprendre. j'en ai encore d'autres. Plutôt, du coup, dans les groupes comme vous, même plutôt chaîne YouTube, mais qui sont aussi dispo genre, sur les plateformes, genre Spotify et autres. Deux que j'écoute beaucoup, c'est Mariachi Entertainment System, qui reprend des musiques de jeux vidéo en style mariachi, et ils sont assez marrants, ils sont assez, assez bons, assez nombreux, du coup c'est assez...
Ils prennent un shot cool, de tequila
quoi.
À chaque fois.
Ils prennent un shot de tequila à chaque fois au début, ouais. Et le deuxième, c'est Banjo-Kazooie, qui est donc un mec qui vit en Angleterre, mais qui est français, il me semble. Je l'ai vu au Kawaii il n'y a pas longtemps en photo. Et qui fait qui reprend des musiques de jeux vidéo, typé banjo, guitare, etc. Et qui fait des productions très très propres.
Et enfin, petite question plus facile, compositeur jeux vidéo préféré pour.
Plus facile.
Et moi, du coup, je réponds avant Adrien, je dirais Ben Prunty.
Damn it!
Non,
moi j'avais Ben Prunty dans mon compositeur préféré. Je vais tricher un peu, je vais dire mon compositeur préféré, mais qui a déjà fait du jeu vidéo. C'est Rémi Gallego, qui est aussi connu sous le nom The Algorithm, qui fait du progressive Dark Synth Wave, post-avant-garde, glitch neo, je sais plus quoi, ce que je vous ai dit au début, et qui a plusieurs noms de scène. Donc The Algorithm, qui est extrêmement bien, mais qui n'est pas du jeu vidéo. Boucle Infinie, qui est extrêmement bien, mais qui n'est pas du jeu vidéo, qui est plus synthwave post-rock, qui est très bien. Et qui a composé aussi, quand même, pour des petits jeux indés. Je retrouverai le nom dans la description en dessous. Mais voilà, donc je triche un peu. C'est un compositeur qui a fait du JV à un moment.
Donc. Moi, je vais avoir du mal. Mais du coup, je vais en citer un, et je vais en citer quelques autres, parce qu'il y a quand même il faut une justice. Oui. Mais je vais dire Nobuo Uematsu parce que c'est celui qui m'a le plus marqué et il continue à m'influencer. Je vais dire Yoko Shimomura, mais j'en ai déjà parlé. Et bon, j'aurais dit Ben Prunty aussi, ça marche. Hein, mais sinon, dans ceux que je vais citer, j'en citer des un peu moins connus, je vais dire Fingerspitz, du coup, qui a fait les musiques des jeux de Déconstructible. Donc, God Will Be Watching, The Red Strings Club et l'autre jeu dont j'ai parlé plus tôt, dont j'arrive pas à dire le nom parce que c'est très long, mais qui sont des expériences sonores vraiment très très cool. Et je vais en citer un dernier. Ah, j'ai perdu le fil. Il y en avait un dernier. Bon, je sais plus.
C'est bien parce que moi j'avais une liste de 4, t'en as déjà cité 2, donc je peux enlever, j'ai pas besoin de dire Nobuo Uematsu et Yoko Shimomura. Moi je pense que je mettrais Koji Kondo en premier parce que c'est comme le mec qui a fait Mario Zelda, à partir de là il a gagné, tu vois. David Wise aussi pour la musique de Donkey Kong Country.
Je cherchais Toby Fox, voilà, le compositeur de Deltarune, Undertale, tout ça, qui à chaque fois c'est trop bien. Okay. Voilà.
Très bien. Alors, un petit mot pour Lucas Pop aussi, qui fait partie de ces gens qui font leur jeu en entier, y compris la musique, donc qui a fait Papers, Please et Return of the Obra Dinn. Voilà, je rename drop Return of the Obra Dinn. Et juste un petit mot, vu qu'on a fini les questions, pour Mick Gordon. Juste un petit mot sur Mick Gordon, qui avait fait notamment la BO de Doom, qui est très très métal et... Ouais.
BFGS Division.
Voilà, pour nous les métallos, ça nous a fait du bien d'entendre ça dans de la musique de jeux vidéo.
D'ailleurs, il a fait une conférence à la GDC sur la musique de Doom. Donc, si vous voulez savoir comment il a fait ça et à quel point il se pose beaucoup de questions sur sa vie, bah, vous pourrez l'écrire. En plus, il avait fait un truc, une vidéo où il faisait de la musique à partir des sons que leur proposaient des développeurs. Donc, en gros, il a enregistré des développeurs, fait fais-moi un bruit. Puis il a enregistré plein de développeurs, il a fait une musique avec ça. Voilà.
Très bien, donc c'est tout pour les questions. Un petit tour de table pour aller plus loin, un conseil, un lien, quelque chose à aller voir.
Alors moi, je parlerai justement des masterclass. On en a déjà pas mal parlé, mais vous pouvez les retrouver en fait sur YouTube. Et du coup, il y a pas mal de créateurs de jeux vidéo qui ont une masterclass justement sur eux. Et dans les dernières, il y en a une sur de Inun Zur. Et la vraiment toute dernière, celle avec Olivier de Rivière. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'ils parlent un peu de leur parcours, de comment tout leur process de création, les outils qu'ils utilisent, comment ils créent des sons et tout ça. Donc si vous êtes passionné ou même juste curieux, c'est très intéressant à voir.
Juste pour situer, Olivier de Rivière qui a fait notamment la BO de Remember Me et du DLC de Assassin's Creed Black Flag notamment. Et Inun Zur qui a fait la BO de Fallout 4, de Baldur's Gate, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, des gens qui pèsent un peu dans le milieu.
Je vais prendre la deuxième du coup, vu qu'on l'a noté en plus. Le podcast Les Démons du Midi, donc, qui était sur Radio Kawa avant, mais qui sont partis. Ce qui n'empêche pas de l'écouter. Donc un podcast de musique de jeux vidéo très cool, qui sort une fois par mois, depuis plusieurs années. Donc dedans, vous aurez plein de musique de jeux vidéo, avec un petit commentaire à chaque fois sur qui l'a fait, etc. Et c'est très intéressant.
C'est ultra bien pour voir toute la richesse de la musique de jeux vidéo, pour voir aussi les vieilles musiques de vieux jeux vidéo et se dire bah, c'était pas si terrible que ça et finalement moi ce que je fais maintenant c'est un peu pareil et pour voir un petit peu effectivement la construction, on voit selon les jeux il y a des patterns qui reviennent, des instruments qui reviennent etc. Donc c'est extrêmement intéressant, ça dure 2 heures par mois à peu près je crois, ouais. Et ça s'écoute très très bien.
Ça permet de compléter sa playlist aussi.
Tout à fait.
Moi je vais conseiller un livre donc, qui s'appelle VGM, Video Game Music. Aux éditions Pix & Love. Alors comme tout ce que font les éditions Pix & Love, c'est très bien. Et donc celui-là en particulier, bah, il parle de la musique de jeux vidéo avec plein de trucs très intéressants. Donc ouais, je conseille ce livre.
Je vais complémenter en disant, vous pouvez aussi acheter OST, où c'est un livre qui va vous parler, enfin découvrir des musiques, c'est-à-dire que c'est par ordre alphabétique. Et en gros, il va vous présenter une musique, un peu l'histoire autour de ça, quel genre de musique c'est. Et en plus, en bas, il y a un petit encart où il y a marqué, si vous avez aimé cette musique, voici 3 autres OST qui pourraient vous plaire. Et du coup, au total, il y a, je ne sais plus combien de musiques, je crois qu'il y en a 150, mais au final, tu rajoutes 3 titres à chaque fois en plus, donc ça fait le trip, quoi. Donc, tu as beaucoup de musiques à découvrir, ça permet de découvrir des musiques que vous n'auriez pas forcément écoutées. Genre, moi, j'ai découvert des OST de Ace Combat que je n'avais jamais écouté, et que du coup, je suis en mode, en fait, c'est trop bien.
Moi, je vais vous conseiller, bon, alors, il commence à être extrêmement connu sur YouTube, la chaîne d'Andrew Wang, qui est un artiste, donc un compositeur, qui, bon, je pense qu'il fait énormément d'OPSP pour beaucoup de constructeurs de matériel, parce qu'on le voit toujours travailler sur des nouveaux matos, mais qui explique tout son processus de création, comment il tord des sons, comment il utilise certains instruments, comment il branche des trucs, et ça permet un petit peu d'avancer sur le process d'apprentissage.
Je vais faire complément d'information, donc appelez-moi monsieur complément d'information. Ouais, en fait, il fait beaucoup d'OPSP parce qu'il est en partenariat avec Reverb, qui est un des plus gros sites de matos aux États-Unis. Du coup, ça lui permet d'avoir beaucoup de matos et je pense des réductions derrière aussi, ou juste du matos gratos. Et complément aussi d'information, il a l'oreille absolue.
ce qui est pratique. Ce qui est très pratique. Mal,
bah, du coup, si on a fini, faut quand même, on peut rajouter la chaîne d'Aurélien sur YouTube.
Abonnez-vous.
Ouais, une dernière fois.
On mettra le petit lien.
Oui, oui, il y aura beaucoup de liens entre Thilou, Aurélien, Chronomusique, Andrew Wang. Je vous inviterai aussi à aller voir celle de Rémi Gallego, du coup, elles sont sur YouTube aussi.
Alors, pas grand-chose à voir, mais je crois que Kuglit avait un petit...
Il y a un truc qui a eu lieu et qui peut-être continue, alors peut-être pas au moment où vous écouterez le podcast, mais sur Twitter, il y a eu un développeur, donc Steve Gaynor, qui est le développeur sur Gone Home, qui a fait un appel à témoignage, en fait, à tous les gens du milieu, à donner les trucs horribles qu'ils ont vus, enfin, horribles au sens des bêtises, des trucs mal codés, des trucs, des sons faits à l'arrache.
Enfin, les pires hacks.
Les pires hacks, les pires bidouilles, les cochonneries, en fait, dans la production de jeux vidéo. Et donc, ça va du jeu codé dans un seul fichier, enfin, avec tous les scripts dans un seul fichier énorme, des textures gigantesques sur des graviers qui passent en prod dans le produit fini, ou des données qui sont perdues juste avant la sortie et qui doivent être refaites à partir de vieux trucs bidouillés qui font plein de bugs, ainsi de suite. Bref, il y a tout un tas d'histoires rigolotes. Il y a plein de devs qui se sont prêtés au jeu, y compris sur des gros projets, des trucs comme ça. Il y a à la fois des trucs très anciens, des trucs très récents. Et le thread est super long. Mais il vaut vraiment le coup, on mettra le lien aussi, c'est vraiment rigolo quoi. Les gens, je pense qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans le milieu, bah, on peut quand même apprécier effectivement le côté très à la fois rigolo et sur le moment pas forcément rigolo pour les gens qui...
Bah, typiquement, moi je m'étais posé la question il n'y a pas longtemps, enfin de temps en temps quand j'ai des jeux Steam, j'aime bien regarder le fichier loco, voir s'ils ont laissé traîner des trucs, et une fois j'avais ouvert Hyper Light Drifter, et si vous l'avez je vous invite à le faire, si vous ouvrez le fichier local où il y a tout ça, toutes les musiques sont à la racine du projet. Et t'as tous les audios qui sont à la racine du projet, et t'es en mode, mais non, c'est pas normal, ça se range. Et du coup, c'est très très bizarre d'avoir tous les audios à la racine. Et dans la même idée, il y a une anecdote un peu rigolote que j'ai sur FF7, enfin sur tous les FF, quand ils ont dû faire les remakes, ils ont pas gardé les datas de base, ils ont pas gardé les versions goldées, et ils ont dû repartir d'une version avant gold, donc qui a été pas validée, repartir de ça, sachant qu'il y avait des bugs, du coup, des nouveaux bugs qui sont apparus, et ça a été extrêmement laborieux, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de remake du 8, parce que c'est extrêmement compliqué, parce qu'ils n'ont rien sur le 8.
C'est ça, au Japon, il y avait moins en tout cas à l'époque la culture de garder un maximum d'assets et de donner...
Ça, je ne pensais pas qu'au Japon, enfin, c'est genre beaucoup de studios, surtout à une époque où c'était... Enfin, sur des premiers jeux, typiquement, les studios en général, ils n'ont aucune idée du succès que ça va avoir, ils sont claqués parce qu'ils sont au bout du rouleau, et personne ne pense à garder ces trucs-là. Et je veux dire, moi, je sais que nous, s'il y avait certains trucs qu'on devrait sortir, on galérerait aussi, quoi. Enfin, tu vois.
Mais quelque part, c'est assez rassurant, je trouve, de voir ce genre de thread où des gens que tu peux admirer ou des gros studios, des trucs, ils disent, ouais, en fait, trois jours avant, il y a tout ça qui a pété. En fait, on a fait tout à l'arrache et c'est passé quand même.
Ouais, bah.
Dis bon, bah finalement, ça arrive aux autres, quoi.
C'est même, ça. Et puis oui, dans le thread en question, il y a des pointures, quoi, et des gens qui admettent avoir fait des trucs où tu te dis, ok, bon, bah en fait. En game jam ou en vrai prod, dans la prod d'un jeu pro dans un studio, bah ouais, il y a des trucs comme ça qui arrivent et ça se passe et c'est pas trop grave. Enfin, tu vois.
J'en avais vu un autre aussi un peu dans le même genre où c'était les trucs dont les gens étaient le plus fiers.
Ouais.
Je me rappelle ça parce qu'il y en avait un que j'avais trouvé excellent où c'était le mec qui avait fait, je sais plus, c'était pour la console ou pour le jeu. C'était sur Xbox et en fait, quand ça chargeait, t'avais une petite onde. T'avais une petite onde qui se baladait sur l'écran le temps que ça charge. Et en fait, il avait codé dans l'onde le numéro de série de la console pour savoir qui c'était qui leakait les trucs. Il avait expliqué ça sur le net en disant bah, « Moi, j'ai fait ça en Scred. » Enfin, en Scred, c'était connu dans la boîte, ouais. Mais c'est tout. Et comme ça, il disait bah, « S'il y a des leaks de vidéos, bah, pendant le chargement, on sait de qui ça vient. » Ce qui est assez malin. Très bien, merci. On va passer donner un petit moment à Aurélien pour nous dire si tu as des actus, tu veux faire ton auto-promo, même si déjà fait un peu. Mais...
Dans mon auto-promo, alors je ne sais pas si je pense pas que le podcast sera sorti, mais normalement j'aurais sorti d'ici là un petit court-métrage audio, une expérience sonore un peu d'horreur, donc ça devrait sortir normalement au mois de janvier. Je prépare pas mal de contenu sur ma chaîne YouTube avec des interviews de compositeurs, de sound designers français et pas forcément français. Et aussi d'autres formats un peu plus classiques que je fais sur ma chaîne. Et sinon, voilà, je bosse sur Propaganda, sur des projets dont je n'ai même pas encore conscience, mais qui vont sûrement arriver d'ici là. et voilà, donc abonnez-vous.
Très bien. Un dernier mot autour de la table, quelque chose à dire en particulier? Un jeu auquel vous jouez, je ne sais pas.
Et bah, du coup, là, au moment où tu as parlé d'expérience musicale, j'ai pensé à un jeu qui avait été conçu uniquement pour les personnes aveugles.
Blind Legend.
Blind Legend, voilà. Où du coup, le jeu ne se joue qu'en audio pour essayer de comprendre, en fait... Enfin, voilà, il se joue qu'en audio, donc voilà, ça peut être aussi un test.
Et oui, c'est un peu tard. Enfin, on va pas revenir sur le sound design, mais je sais que l'Odyssée d'Abe est un jeu au sound design tellement bien fichu qu'il y a une personne aveugle qui arrivait à y jouer et qui a réussi à faire un playthrough complet de l'Odyssée
d'Abe. Street Fighter.
J'allais en parler Street Fighter, justement, du joueur pro qui est devenu aveugle et qui, du coup, maintenant se base sur les sons du jeu pour jouer et savoir les déplacements et comprendre.
Comme quoi, le sound design, c'est important.
Voilà,
c'est
important. Très bien, bien merci à tous. On va faire nos petits remerciements de fin d'émission. Donc tout d'abord, merci à Nadeo pour nous héberger. Merci à Radio Kawa de nous publier, de nous accompagner. Et merci à tout le monde autour de la table. Donc à toi Aurélien d'être venu nous éduquer un peu parce que c'est pas un domaine qu'on connaissait très bien à part Adrien. Et merci à nous quatre qui étions là.
Merci Antoine de m'avoir remplacé et merci à Radio Kawa. Oui, effectivement, on va juste diffuser une dernière petite auto-promo derrière pour Radio Kawa et pour les autres émissions du groupe.
Oui, il y en a plein, allez les écouter. Ainsi s'achève ce 4e épisode de The Game Makers. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos suggestions de thèmes pour les prochains épisodes sur Twitter @GameMakersCast et on se retrouve très vite. Salut.
Connaissez-vous Ludographie Comparée? À chaque numéro, Mathieu Gou,
c'est moi,
dissèque un élément d'un jeu vidéo,
un signe vidéoludique,
et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid,
le score dans le premier Mega Man,
le choix dans The Stanley Parable,
la difficulté à rebours dans Braid.
Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa.